Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, mes calissons, mes calissonnes, bienvenue dans ce 48e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Édition spéciale, Les mecs que je veux ken à France Inter. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste, chroniqueur radio à la bande originale et écrivain, Alexis Le Rossignol, à l'occasion de la sortie de son premier roman Les voix parallèles, édité chez Plomb. Nous avons justement parlé écriture, inspiration, ce qui nous motive et ce qui nous décourage, notre rapport aux réseaux sociaux, au stand-up, à la scène, les plateaux et la jalousie. On a beaucoup parlé de ce sentiment et je pense que vous comprendrez pourquoi j'ai voulu faire cette édition avec beaucoup de chroniqueurs de la bande originale après avoir écouté cet épisode. Voilà, je redébrieferai en outro. Et je tiens à remercier Marie Knopf, Marine Jojoba, Rémi 90762, Janelle 13 et Floflo 2210 pour les commentaires sur Apple Podcast. Ça me touche énormément et ça reste en plus en fait. À chaque fois que je vais sur la page avis pour la rafraîchir et voir si j'ai des nouveaux mots, et ben je relis les anciens, les positifs, et ça me met du baume au cœur. Ça reste. Alors que les DM, Insta, en fait, ça me fait toujours très plaisir, mais j'en reçois quand même un paquet, en plus de toutes les réactions à mes stories sur Insta. Donc en fait, ça, ils se noient, les messages, je les oublie. Et je sais que j'en ai reçu des très cool. Une nana qui me remerciait de parler du plaisir, et elle se rendait compte dans son couple que c'est elle qui voulait toujours satisfaire son mec, mais qu'elle oubliait de se satisfaire elle-même. Et en fait, j'aurais trop aimé que le message il soit sur Apple Podcast, comme sur une espèce de portail, un tab, en fait, pour le garder. Et il y a un autre gars, alors, qui m'a écrit un DM, qui, je crois que c'était genre ça, genre, je t'écoute sur Spotify, mais dès que j'ai 5 minutes, j'ai capté comment, je te lâche un petit comment sur Apple Podcast, clin d'œil, plaisir, t'inquiète, dès que je trouve le temps, lololol. Non, en fait, ensuite, il réagissait à toutes mes stories, donc, en fait, j'avais envie de lui dire, prends-les tes 5 minutes, lâche ton commentaire à Apple Podcast, enfin, je ne veux pas m'énerver, et... Si vous écoutez sur Spotify ou Deezer ou toute autre appli, je comprends que vous ayez la flemme d'aller trouver... Par contre, si vous écoutez sur Apple Podcast, là, franchement, lâchez votre commentaire. Voilà. Faites comme Rémi. Et Rémi, il a juste écrit « Top ». Il a mis 5 étoiles, titre « Toujours un vrai plaisir ». Oh, écoute, Rémi, je suis trop contente pour toi. En vrai, c'est génial, parce que pour moi, c'est génial, parce que ça c'est bien pour ma moyenne, pour l'algorithme. Pour la crédibilité, en fait, auprès des marques qui vont sponsoriser les mecs que je veux ken, pour que je puisse me rémunérer tout ce travail, en fait. J'ai pas envie de vous demander, vous, directement de la thune via un Patreon. Je sais qu'il y a pas mal de podcasteurs qui font ça, mais moi, j'attends la sortie de mon livre. Voilà. Et je me dis que vous l'achèterez et que ça donnera du sens à ma vie. Quant aux commentaires négatifs, podcast inécoutable aussi, je comprends franchement qu'on peut pas plaire à tout le monde vraiment, et parfois il y a aucune raison, même ils sont courageux les gens d'aller écrire des commentaires négatifs pour essayer d'expliciter ce qui leur déplaît chez moi, parce que parfois c'est juste inexplicable ce qui te déplaît chez quelqu'un, ou alors c'est inavouable. Moi, il y a un podcast américain, je suis fan, c'est un couple d'humoristes qui le fait, je suis plus fan du mec que de la meuf de ce couple d'humoristes, et je le trouve un peu plus sincère dans sa nature, je la trouve elle un peu moins... Et surtout, en fait, c'est con, mais quand elle rit beaucoup comme un cochon. Elle fait... Alors vous, déjà, moi, j'ai tendance à faire des « des « ouais, ouais, ouais », des « ouais, ouais, ouais ». Et quand je ris, souvent, je ris dans les aigus, c'est plutôt des « ah !» Je sais pas, Mais imaginez, déjà, imaginez, alors j'imagine que là, je m'adresse à ceux... qui n'ont pas lâché leurs commentaires Apple Podcast parce qu'il doit y avoir quelque chose qui vous retient. Imaginez si en plus, à chaque fois que je riais dans le podcast, je riais... En fait, vous savez quoi? Maintenant, peut-être que ça va être une espèce de technique d'intimidation. Tant que j'ai pas 1000 commentaires sur Apple Podcast. À chaque invité qui termine sa phrase, je fais ouais. Voilà. Je vais pas saboter mon propre podcast. Mais en tout cas, je vais pas parler de ma vulve là en intro. J'en ai beaucoup parlé dans les deux derniers épisodes. Et c'était cool, merci d'avoir écouté, parce qu'en fait, je pense que c'est des blagues que j'ai rodées, que je réutiliserai en stand-up, en fait. J'ai envie de faire une espèce de comédie musicale de ma vulve et de l'imiter, ce que j'avais un peu commencé à faire au point virgule, mais de l'imiter en chantant des chansons. C'est-à-dire d'imiter ma chatte qui chante « Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ?» Genre ça, c'est ma chatte triste. Et genre de faire ma chatte « Femme des années 80 !» Ah non, c'est femme ou je sais plus. Vous voyez, de chanter des chansons en fonction des humeurs de ma chatte. Ou alors, je sais pas, de chanter « It's Cliff, it's me, I'm Catherine !» Vous voyez, genre de c'est quoi la chanson que ma chatte chanterait quand elle a ses règles? Certainement une chanson de Kate Bush sur Les Hauts de Hurlevent. Certainement quelque chose dans cet esprit. Je termine rapidement cette intro sur une reco, The Jinx sur OCS, meilleure série documentaire sur un criminel que j'ai vu de toute ma life. Et maintenant, je vous embrasse bien fort et j'espère que vous apprécierez cet épisode avec Alexis Le Rossignol. Bonne écoute.
Ouais, parce que...
Disons que ça me choque pas, c'est comme ma mère, elle me dit toujours « Si tu cherches un autre appartement, pense bien à l'orientation ». Et tu vois, moi, j'ai jamais su si j'étais nord ou sud ou... Donc maintenant, je regarde ces trucs-là.
Ouais,
mais de base,
ouais.
Tu sais, je me dis, il fait pas nuit dans l'appart, quoi, ça va. Mais...
Ouais, bah l'orientation, c'est vrai que quand t'as une maison, si jamais tu peux avoir le coucher de soleil, c'est vrai que
voilà.
C'est un truc de ouf.
Ouais.
Mais,
je suppose que c'est commencé, hein.
Oui, c'est commencé, absolument, absolument, j'ai bien tout.
C'est une sorte de début sans début, quoi.
T'as tout compris.
Ouais, je comprends. D'ailleurs, je pense même que tu enregistrais avant même...
Quand t'étais dans l'ascenseur, j'enregistrais. Bon, en fait, t'as un micro sur toi. J'enregistre depuis hier soir.
Il y a un mec qui m'a tapé dans le dos en bas à Bagnolet. C'est un complice à toi qui m'a mis une puce dans le dos,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Mais ce qui est pratique, c'est que ça t'a vacciné aussi. Ah. Ça fait les deux.
Sans mon accord, par contre, je suis pas très d'accord.
Bon, alors, je te lis ton petit poème, Alexis.
D'accord.
Alexis, rencontré la première fois au Love Steady Crew, où il faisait un sketch qui reposait uniquement sur l'énumération d'une très longue recette. J'avais trouvé cela virtuose et j'étais allée le lui dire. Puis, on s'est souvent croisés sur les plateaux. Or, très vite, tout s'est accéléré pour Alexis. Chronique sur France Inter, spectacle au point virgule avec des extraits improvisés mis en ligne et qui cartonnent sur YouTube, maintenant le bouquin. J'adorais le premier roman Les Voix parallèles d'Alexis qui vient de sortir chez Plon et notamment la dernière partie. Sans trop spoiler le livre, disons que dans la première, Alexis plante le décor. C'est le tableau d'une classe sociale avec une multitude de personnages très bien décrits, comme Gilles, patron du bar des sports de Saint-Savin et fan de Nicolas Hulot. Le ton est là, c'est juste, l'écriture est légère, élégante. Mais j'ai personnellement été vraiment happée par le récit dans la deuxième partie, recentré sur le lycée et la vie des adolescents, les troubles du personnage principal Antonin qui se demande si la taille de son sexe est normale, pourquoi il n'éjacule toujours pas, et surtout si Lisa partage ses sentiments. La virée, les dernières pages sont incroyables, de réalisme et très très émouvantes. Merci Alexis d'accepter de venir en parler dans mon podcast.
Eh bien avec plaisir, merci de m'inviter.
Ben non, mais je suis très contente et tu le prends pas mal le fait que j'ai préféré la deuxième.
Non, je pense que c'est normal parce qu'en fait la première, tu le dis très bien, c'est un tableau, donc peut-être qu'il ne se passe pas grand chose, mais tout participe à la fin, en fait tout se retrouve, c'est un entonnoir finalement, et si tu passes pas par le décor, tu peux passer à côté de l'enjeu, en fait.
Mais oui,
voilà.
Bah oui, de l'enjeu social, c'est vrai,
de l'enjeu social, voilà.
Ouais. Et donc comment... Donc c'est une éditrice qui était d'abord qui est venue tu disais dans les remerciements, c'est...
Oui, tout à fait. Ouais. Elle écoute encore France Inter, et donc elle m'a...
Je pense qu'elle veut plus te parler maintenant.
Elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant voilà, je pense que vous avez un truc littéraire dans votre façon d'écrire, au-delà du fait que ce soit à vocation comique. Et alors moi, ça m'a trop fait plaisir, puisque j'écrivais beaucoup avant.
Okay.
J'écrivais des choses plus sérieuses plutôt que des chroniques, etc. Mais en fait, la porte d'accès à l'humour est beaucoup plus facile que la littérature.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai choisi de faire de l'humour. avec l'idée de faire autre chose après, tu vois. Mmh. Et donc, enfin, même pas l'idée, mais je me disais, voilà, j'ai tellement envie et besoin de m'exprimer que si l'humour permet ça d'une manière assez rapide, tentons-le, tu vois.
Ouais.
Et puis, j'avais déjà écrit 3 ou 4 débuts de romans que je lui ai envoyés et des nouvelles. Et les nouvelles, c'était des nouvelles qui se retrouvent un peu dans l'histoire d'Antonin et puis d'autres que je n'ai pas sélectionnées. Mais elle m'a dit, voilà, ça me plaît. Il y a un truc dans l'air du temps et je pense que vous pouvez en faire un roman. Donc, voilà. Et j'ai essayé de...
Elle t'a dirigé vers le roman.
Ouais, elle m'a dit, on pourra publier des nouvelles, mais ça ne se vend pas.
OK.
Voilà. Les nouvelles lui plaisaient, mais elle dit, je pense qu'il y a un truc à... Et voilà, après, Antonin n'existait pas, tu vois.
OK.
Et il me fallait un fil rouge.
Ouais.
Et je me suis dit, il faudrait un type qui soit un peu à même de naviguer entre ces différents milieux, entre le bistrot, ouais, entre le foot, entre les histoires de famille, notamment celle de Johan, qui lui, c'est vraiment c'est le sort qui s'acharne sur une famille. Donc... comment je peux les faire se côtoyer, ces gens-là, quoi. Et puis après, l'histoire d'amour est venue aussi parce que les histoires de lycée font que les histoires d'amour sont toujours sous-jacentes.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et donc, je voulais que ce soit une histoire d'amour qui soit compliquée, qui soit pas évidente, qui le mette un peu dans le... il est partagé, quoi. Ouais. Il sait même pas s'il lui plaît.
Non, mais par contre,
c'est
des petits indices, mais ce qui est beau, et où là où je me disais, tiens, est-ce que c'est ça la naissance de la vocation d'humoriste d'Alexis, c'est que, comme au départ, il ne sait pas, il n'a aucune idée si elle lui... Et ça, c'est vraiment, d'ailleurs, un truc de l'adolescence, où tu peux pendant un an aimer quelqu'un sans savoir si c'est en retour. Et ça se trouve, c'est partagé, sans oser lui dire. Tous les matins, tu y vas, et puis tu fais semblant qu'il n'y a rien. Et parce que je pense qu'il n'y a pas... il n'y a pas forcément l'objectif de baiser. Donc, je trouve que tu te contentes vachement plus du sentiment amoureux quand tu es adolescent.
Ah, moi, je ne pense pas que ce soit que tu te contentes. Je pense que c'est le manque de confiance en toi qui fait que tu ne franchis pas le pas, quoi.
Peut-être,
et que tu vas voir des mecs que tu estimes pas forcément plus beaux que toi.
Oui.
Mais y arriver parce qu'ils y vont, quoi. Et en fait, à un moment donné, il faut y aller, en fait.
Oui, c'est vrai, il faut y aller. Non, non, c'est vrai que parfois, tu as envie que... Parfois, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe si je révèle l'amour Ouais, mais en tout cas, oui, tu peux passer des heures à analyser, à se dire. Et lui, en fait, il l'a séduit en faisant le clown.
Elle le met presque dans cette position de faire le clown.
Ouais.
Parce qu'il est timide, lui, avant. Il est introverti comme garçon.
Ouais.
Et puis, en fait, il se rend compte qu'il l'a fait rire. Et donc, elle pousse ce truc-là. Puis un jour, il s'invente un chien imaginaire.
Ouais.
Là, et ce chien imaginaire, il le balade partout dans la classe, dans les cours, dans les couloirs. Et puis, il pousse des aboiements. Et ça, en fait, ça fait réagir une petite bande là, de copains qui rigolent de ça.
Ouais.
Et ça lui donne une place. Il trouve sa place, en fait, dans la classe. Et dès lors qu'il trouve sa place, il prend un peu confiance en lui, quoi.
Ouais.
Jusqu'au jour où il l'appelle. Voilà.
Ouais.
Il prend son téléphone, il l'appelle. Il espère pas tomber sur sa mère.
Ouais.
Banque de peau, il tombe sur sa mère. Enfin, tu vois, je voulais ramener toute cette... adolescence qu'on a eue avant les années portables,
mais grave.
Où on appelait, on avait peur de tomber sur... On n'avait pas trop de raisons d'appeler, on hésitait, on avait peur, on voulait presque raccrocher avant même d'avoir parlé.
Bah, bien sûr.
Il y avait des longs silences.
Ouais.
Et puis on s'enfermait. Parce
et puis on se donnait un style.
Écoutent.
Ouais, on se donnait un genre, on jouait un truc. Et même les musiques, tu remets les musiques qui étaient vraiment les musiques des booms de l'époque.
Ouais.
Les Diane Soupacro, les Neg Marron.
Les
Neg
Marron.
Les mecs qui dansaient au sol, par terre. Ouais, putain. C'est drôle d'ailleurs que tu dises d'ailleurs que les mecs autour n'étaient pas spécialement... Enfin, ils font semblant d'être contents, mais ils ont...
Parce qu'ils sont dépassés. Il y a meilleur qu'eux, quoi. Un mec qui danse hyper bien dans une boîte, il a déjà fait la moitié du chemin.
Ouais, c'est sûr.
Et donc, eux, ils jouent les durs, quoi. Les mecs pas touchés, mais au fond d'eux, ils aimeraient que le mec se casse un poignet, quoi.
Mais ça, c'est un truc aussi que j'ai beaucoup aimé et que je trouve très moderne dans ton livre. C'est la masculinité, en fait. C'est que... en fait, ça raconte beaucoup au-delà des questions de la taille du sexe et de l'éjaculation, mais même justement à un moment dans la boîte, je sais plus, il y a un barman qui répond un peu froidement ou qui les vire parce qu'ils sont dans le carré VIP et qu'ils sont pas censés être là.
Ils ont pas pris d'alcool, de bouteille, donc ils sont pas censés être là.
Et tu nous fais le monologue intérieur du personnage qui se dit comment moi en tant qu'homme je dois réagir en fait à ça.
Exactement.
Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je montre de la violence? Est-ce que je fais le mec cool? Et en fait, et ce qui est très beau, c'est qu'à la fin, c'est la fille qui te sauve en étant allez, c'est cool, c'est rien. Et résultat, et ça le rassure et il passe à autre chose. Mais toutes ces options. Entre guillemets, de comportement viril, j'ai trouvé ça très, très juste comme description. En fait, je pense que c'est assez moderne que les mecs parlent de ça, de dire, quel était le bonhomme que j'avais envie de devenir, tu vois. Et au final, il est un peu... on le comprend bien. Mais parce que je pense que c'est la même chose chez les nanas par rapport...
Il y a un double enjeu en plus dans ce qui se passe pour lui, c'est assumer sa virilité et assumer la position sociale qu'il vient d'endosser et qui n'est pas la sienne, il joue un rôle là.
C'est clair.
Et ce rôle, c'est un rôle de petit bourgeois.
C'est clair.
Il y a toute une histoire autour des tennis
avant. Les chaussures, bien sûr, qui lui font mal aux pieds.
Qui lui font mal aux pieds, mais c'est des petites Lacoste.
C'est des Lacoste.
Donc, l'espace d'un instant, il arrive avec deux petites bourgeoises dans une boue et
il joue
est déposé
un
par une BMW. Et voilà, il est pris pour un bourgeois et un bourgeois ne se fait pas mal parler dans sa tête.
Ouais, bien sûr.
Donc, est-ce qu'il joue ça à fond, en fait?
Ouais, c'est ça.
Et l'autre lui parle mal parce qu'il sait qu'il a les vidas avec lui. Parce que lui, il fait partie de la boîte, quoi. C'est un employé.
Ouais, ça, c'est vrai, c'est ça. C'est ce mensonge quand tout d'un coup, tu... Et puis, dans les boîtes, tout le monde joue, tout le monde ment un peu parce que les gens tirent la gueule pour rentrer. Il y a tout... un mensonge orchestré, t'es jamais tout à fait naturel quand tu rentres en boîte, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut quand tu fais partie des gens qui
les habitués.
Tapis rouge, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais...
Moi, je me suis jamais amusé en boîte. C'était tout. Bah oui, parce qu'en fait, le problème d'une boîte, quand t'es jeune, c'est déjà d'y rentrer. Bon, après, tu y rentres, mais c'est l'argent que tu vas dépenser. Quand on a pas beaucoup, t'as toujours ce souci de te dire, putain, mais combien je vais craquer, combien il me reste, et puis attends, là il me reste 15, mais là, ça veut dire qu'en fait, si je vois une nana, il faut que je lui paye un coup, donc là je peux plus me payer un coup à moi tout seul, faut que j'attende d'en voir une, puis à la fin il est 3h du mat, et puis t'as rien, il y a pas une gonzesse qui s'est intéressée à toi, et là tu dis, vas-y, je me bourre la gueule, puis en fait t'as plus que 15 euros et tu finis, t'es même pas bourré, quoi.
C'est clair. Ouais. Ah ouais, non, c'est vrai, les boîtes, j'exagère, je sais pas m'amuser toute seule, mais j'ai été initiée, c'est-à-dire qu'on m'a appris, tu vois, par exemple, en décembre, pas dernier, mais 2019, je suis sortie en boîte avec Camille Laurent, et qui, elle, est une meuf qui sort, tu vois, donc résultat, elle avait prévu de l'AMD avant, tu vois, on est venu avec deux amis à elle, donc elle a su quand est-ce qu'il fallait qu'on prenne de l'AMD pour qu'on soit un peu défoncé, tu vois, je saurais pas, déjà j'en ai pas, puis j'aurais pas su calculer que là, donc pile quand on est rentré, on commence à être un peu, donc forcément, tu t'amuses un peu,
t'es dedans,
en plus, la musique, c'était de la techno, donc autant te dire que moi, franchement, si j'étais pas droguée, j'aurais pas kiffé. Ouais. Et en plus, moi, à cette soirée, j'avais rencontré un mec hyper beau.
Ah oui?
Ouais, magnifique. Bon, complètement...
C'est-à-dire rencontré?
C'est-à-dire choper, mais ça m'était jamais arrivé, je crois, de choper un mec en boîte, peut-être une fois à 17 ans, justement. Ouais. Une fois à 17 ans.
Parce que là, t'étais sous MD.
Non, mais j'étais sous MD, mais j'étais pas avec, quand même. Au départ, je voyais que des tons. Et j'étais là, genre, je suis sous MD, mais limite, je me disais, en rentrant, je me disais, ça se trouve, ça va être ma première expérience bisexuelle. Je me disais, ça se trouve, je vais choper Camille. Et je me disais, ça me fera un nouveau set. Je raconterai, tiens, ma foi avec une meuf. Je me dirais, après tout... Donc je me
toujours la pensée de l'humoriste derrière.
Grave. Je me disais, qu'est-ce que ça va me faire écrire. Donc je partais vraiment dans cette option plus, et puis j'ai vu un gars qui était une bombe, et je me suis dit, non, mais par contre, il est trop beau, quoi. C'est pas possible.
Après, il est trop beau pour moi.
Il est out of my league de ouf, tu vois. Tu vois quelqu'un qui est trop bien pour toi,
Tu parles à beaucoup de gens, hein, quand tu dis ça.
Tu étais à beaucoup de gens trop bien pour moi.
Non. Des gens qui pensent la même chose quand ils voient des gens qu'ils trouvent beaux.
C'est vrai que c'était... Moi, au départ, je le regardais comme une peinture, tu vois. Comme au musée ou d'un truc, je le voyais, je me disais, bon, ou il est maqué, il est sorti avec ses potes, parce que c'est pas possible qu'il soit célibataire, quoi.
Lui trouves des excuses.
Oui, parce que tu te consoles à l'avance de la chose qui ne va pas arriver, vu qu'il est trop beau pour toi. Et ou il est gay, ça c'est aussi un truc que tu peux te dire, tu vois, trop beau, et bah il est gay, il peut pas être hétéro. Puis en fait, il me regardait aussi, et je disais, waouh, et il s'est passé quelque chose. Après, bon, dès qu'il parlait, il était bête, et ça s'entendait.
Ah ouais?
Ouais.
Il avait une voix qui était pas...
Bah, il était tellement bête que ça allait jusqu'à sa... Ouais, il était vraiment... dommage, hein, parce que c'est... parfois, tu aurais envie de dire, il y a des mecs très très beaux qui pourraient être super intelligents. Mm-hmm. Mais lui, il était... Non, ça s'entendait tout de suite.
C'est en train de dire presque qu'il confirmait...
Qu'il confirmait un peu le cliché. Que peut-être à ce degré d'intelligence, est-ce que tu peux peut-être que la nature est bien faite en ce sens-là, qu'il y a quand même un minimum de répartition. En tout cas... Dès le début, moi, ma façon de l'approcher, on s'est mis à danser proche. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, là, par contre, je ne suis pas aveugle, j'étais défoncée, mais je voyais bien. Puis, il me jetait des petits regards et tout. Donc, je me suis dit, oh putain, ça, c'est en train de se passer. et le premier truc que je lui ai dit, c'était vrai, c'était tu ressembles à Timothée Chalamet. Mm. Et il m'a dit, c'est qui ? J'ai dit, tu ne vois pas qui c'est, l'acteur Timothée Chalamet ? Il me dit, non, non.
Ça ne rend pas quelqu'un de bête de pas savoir.
Absolument pas. Mais là, il m'a dit, je ne vais pas au cinéma, je n'aime pas ça.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Et là, j'ai fait OK. Mais ce qui est bien, c'est que je suis
dédié. Là, tu l'as pardonné. Il était tellement beau que tu as dû te dire bon.
Alors là, complètement pardonné. Ouais. Bah ouais. Non,
c'est pas rédhibitoire de pas aller au ciné non plus.
Pas du tout rédhibitoire. Non, 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 c'est juste, il faut pas qu'il parle souvent. En fait, c'est ça. C'est que ça te casse le trip quand même, un mec.
Ah ouais.
Mm. Toi, t'as réussi quand même à choper un peu des meufs en boîte ?
Non, j'étais pas. Oui, évidemment, mais j'étais pas un grand.
T'allais danser derrière chopeur. Comme ça.
Tu vois, à un moment donné, je décris une danse.
Ouais, la danse par derrière.
De Johan, là, exactement. Ouais. C'est des trucs, oui, que j'ai vécu. Tu sais, t'es là, t'es pas loin, mais en fait, c'est qu'elle te voit pas encore.
Ouais.
Donc, jusqu'à ce qu'elle te voit pas, tu danses à côté d'elle. Même, tu peux même t'imaginer que tu danses avec elle. Mais là, quand Johan approche et qu'elle le voit et qu'elle part. C'est d'une violence inouïe, quoi.
Mm.
C'est des trucs que, ouais, j'ai vécu, mais moi, ça m'a jamais traumatisé.
Ouais.
Dans le sens où je me disais, c'est clair que je suis pas en train de draguer dans l'élément qui m'est le plus favorable. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai plus de chances d'avoir une conquête.
Si t'es une spectatrice qui vient voir ton spectacle.
Ouais, mais alors là, quand je te parle des boîtes, quand j'étais plus jeune et tout, c'était plutôt en me disant, en faisant rire quelqu'un, avec une complicité. Au bout d'un certain temps, si tu veux.
Oui.
Mais la conquête directe d'une inconnue, j'y comptais même pas, si tu veux. Quoi.
Ouais.
Mais je trouve quand même qu'il y a une forme de violence dans le râteau, en fait.
Ouais.
Dans le râteau, parce que c'est tellement valeureux d'aller vers quelqu'un et de te mettre à nu et de dire « Toi, tu me plais », que la réponse parfois des filles, ou des garçons à des filles, elle peut être extrêmement sèche, tu vois.
Ouais, c'est horrible.
Et très souvent, j'entends des gens qui disent... souvent des beaux gosses qui disent ça. Non, mais de toute façon, c'est pas grave, hein, tu y vas, tu dis, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais parce qu'ils savent que de temps en temps, ça marche, tu vois.
Ouais.
Et donc, il y a un côté, bon, voilà. Et je pense pour les gens qui ont le physique ingrat, vraiment ingrat, putain, c'est d'une...
Après, c'est rare d'avoir un physique si ingrat. J'ai l'impression que aussi, tous les goûts sont dans la nature, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas...
Ouais, mais regarde, en boîte de nuit, tu vas sortir avec quelqu'un et aimer être vu avec cette personne.
Ouais.
Donc, son physique va... accompagner ton... Ça va te plaire de savoir que t'es avec une fille belle parce que les autres vont te voir avec elle. Mais c'est pour ça que les gens qui sont un peu moins beaux vont moins avoir de succès en boîte parce que forcément, ils attirent moins. Donc, il n'y a pas le côté, regardez avec qui j'ai réussi à danser puis à sortir, quoi.
Ouais, c'est la toute-puissance de l'apparence physique, quoi. Parce qu'en effet, il n'y a rien d'autre à jouer que ça.
Dans des moments comme ça.
Dans des moments comme ça, c'est vraiment ça qui... Et c'est vrai qu'en même temps, c'est un bon retour des choses. Parce que finalement, dans la vie, je pense que les femmes, on donne beaucoup de chance aux hommes de nous séduire par les mots et l'humour. Et que nous, on a moins cette opportunité. C'est quand même plus souvent, déjà de base, l'apparence physique, si on plaît physiquement à un mec. Et là, ça met les mecs tout un peu comme des meufs. C'est-à-dire qu'ils, d'un coup, bah, ils sont choisis sur leur physique comme nous, on l'est. Et ouais, ils n'ont plus la chance de pouvoir faire des blagues.
Ouais, d'accord. Moi, je ne sais pas. Tu crois que nous, les mecs, on ne sélectionne ou on ne choisit des nanas que par leur physique ? T'en es persuadé de ça ?
Non, je ne suis pas persuadée, ouais, mais j'ai
l'impression que ça aide. Ça aide, c'est indéniable.
Bah ouais, j'ai l'impression que quand même, globalement... les filles jolies. Ouais,
je suis d'accord.
Tu vois, ouais, je veux dire, franchement.
J'ai pas besoin d'argument. En fait, je suis d'accord.
T'es d'accord.
En posant la question, je suis. Ouais.
Ouais. Non, mais...
C'est un peu du bon sens.
Franchement, voilà, vous aimez les jolies filles, c'est. Ouais. Voilà. Et puis, même, et à vrai dire, la grosse différence, c'est que même une jolie fille un peu conne, c'est vraiment pas.
Ça passe.
Easy, quoi. Facile. Ouais. Même, mais même pas que pour un soir, ça peut passer pour une vie entière. Ouais. Si elle est vraiment très belle. Mm. Alors que pour une nana, un mec très beau mais teubé, ça passera pas.
Pour toi peut-être, mais il y a aussi l'inverse. Je pense qu'il y a des nanas qui tombent amoureuses de mecs qui sont cons comme des manches, mais qui les aiment parce qu'ils sont beaux, quoi. Non, tu crois pas?
Bah alors elles doivent être un peu connes aussi.
Ouais, ouais,
tu vois. Mmh. Peut-être que des...
Et à la fois, c'est bien qu'il y ait des gens beaux et cons qui sortent ensemble, c'est très
bien. Il y a un paquet.
Ouais, ouais, il y en a un paquet.
Il y en a un paquet. Il y a un paquet de gens beaux et cons qui sortent ensemble. Par contre, il y a moins de mecs con et beau avec des meufs intelligentes, pourquoi pas, mais alors assez dominatrices avec quelques années supplémentaires.
Peut-être,
ce que tu vois plus, c'est des mecs très intelligents et avec des meufs très belles mais très connes. Il n'y a aucun problème, ils ne sont pas sans société crème.
Ouais, après, l'histoire de la connerie, c'est aussi un long débat, quoi.
Ouais.
Quelle forme de connerie tu mets derrière ça ? De la...
T'as raison, parce qu'il y a finalement...
La stupidité, tu veux dire ?
C'est en fait... Il y a plein de gens dont on ne se rend pas trop compte s'ils sont cons ou pas, quand ils ont l'intelligence eux-mêmes de s'en être rendu compte et de choisir la discrétion.
Ouais. Ah là là, y a des gens qui brillent par leur silence et c'est très bien.
Bien sûr. Ouais. Bah, je pense qu'il y a des femmes qui sont certainement un peu coconnes, mais comme elles ne sont pas suffisamment connes, elles s'en sont rendues compte.
Ouais.
Et donc, elles sont douces, discrètes, mystérieuses. Ouais. Et en fait, c'est une espèce de halo, un charme autour d'elles, parce qu'elles ont compris qu'il fallait qu'elles ferment leur gueule, parce que sinon, en fait... et...
C'est terrible à vivre quand même.
Ah bah, je pense que c'est une grande solitude, certainement. Mais à côté de ça, c'est plus rare pour les mecs. En fait, les mecs cons, en général, ils s'en rendent pas trop compte. Et donc, ils parlent et ça s'entend plus. Et ça s'entend plus, tu vois.
Mais après, il suffit de t'entourer de gens un peu comme toi et ça passe très bien. Hein. T'es toujours... tu vois. Bah, je veux dire, si tu estimes qu'un groupe donné est un groupe intelligent... Il l'est dans sa globalité. Tout le monde autour de la table l'est plus ou moins. Après, tu peux avoir des exceptions, mais en gros, dans l'intelligence comme dans la richesse, les gens se regroupent par affinité, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est
ou
vrai.
Par un niveau, quoi.
C'est vrai.
Même
mais...
si l'habileté, c'est de pouvoir aller de l'un à l'autre, en fait.
Ouais, ouais. Non, mais en plus, moi, c'est pas quand je parle, c'est très difficile à définir l'intelligence. Moi, la culture.
C'est un faux débat, en fait, parce que c'est. C'est déjà hyper prétentieux de notre part de juger ça. Quoi.
C'est hyper prétentieux, ça veut dire qu'on se catégorise dans les personnes intelligentes. Pourquoi je me catégorise dans les personnes... Non, je me catégorise pas dans les personnes intelligentes, sauf quand je rencontre quelqu'un de vraiment con. Et là, je suis là, oh putain
En fait, ça va.
Ouais. En fait, quand je suis seule ou avec des amis, j'oublie. Et tu vois, si on... Et puis tout d'un coup, la présence ou la remarque ou une personne conne qui se trahit, et là, c'est... Et ben là, je me dis, ah, moi, je suis mieux qu'elle quand même.
Ouais.
Mais...
Ouais, je pense que ça relève un peu de la stupidité ou de l'idiotie, ce que tu veux dire.
Ouais.
Mais l'intelligence, elle prend tellement de formes différentes. Que tu par contre, moi, à l'inverse, quand j'écoute des gens extrêmement brillants, tu vois, ça.
Tu te sens con ?
Ouais. Je me sens pas con, mais je me sens pas exceptionnel en tout cas. Quoi.
Ouais.
Enfin, j'ai pas une prétention d'être quelqu'un d'exceptionnel, mais je sens vraiment que je le suis pas. Si tu veux. Il y a pas de doute là-dessus, quoi.
Ouais,
j'écoutais ton podcast avec Raphaël Antoven. Là.
Ah ouais.
Quand tu vois
l'habileté
de toutes ses réponses sur des sujets aussi délicats que ceux qu'il aborde avec toi, là, c'est hyper intéressant. En plus, c'est marrant parce que t'as une forme de timidité face à lui aussi, je trouve.
Oui.
Parce que j'ai l'impression que tu veux pas trop en dire, le laisser parler, mais également trop dévoiler.
À la fin, je lui lis quand même mon texte sur la sodomie.
J'ai pas tout écouté, ouais. Il faudrait que j'écoute la fin.
À la fin, je lui lis le truc sur la sodomie. Et il répond hyper bien, il est très à l'aise là-dessus.
Il est brillant, ce mec-là.
Ouais, ouais, c'est vrai. Après, pour l'avoir écouté, j'étais intimidée par lui. J'étais toute seule. À cette époque, il y avait souvent Ariski qui m'accompagnait. Mmh. Là, j'étais toute seule, donc il y avait la fenêtre ouverte. J'avais peur de techniquement rater un truc. J'étais moins... Et c'est vrai qu'en plus, c'est pas un humoriste. Donc, les humoristes, j'ai l'impression que si tu balances caca ou pé de fouf, c'est un langage où tu vois ça. Alors que lui, je me disais, ça se trouve, genre, il y a un truc qui va m'échapper de vraiment vulgaire et je vais le choquer pour de bon, ça va être atroce. Mais je me suis rendu compte que même s'il était très habile, il me répondait parfois des choses, des réponses que j'avais lues dans son livre sur des chroniques.
Ah oui.
Donc il y a des choses, il y a des, comme il fait beaucoup d'interviews, de conférences, etc. Il y a des sujets philosophiques, tu vois.
Qu'il maîtrise tellement, qu'il peut les placer assez facilement. Et forcément, ça, il y a un côté un peu, ça t'en met plein la vue.
Ouais.
Ouais, je comprends.
Et il parle très bien. Et après, en plus de parler bien, il est un peu hypnotique dans sa façon de parler. Ouais. Parce que si tu vois, il parle comme ça, et puis ensuite il parle comme ça, et puis ensuite il s'éloigne. Ouais. Il revient comme ça très très fort, et ensuite il parle très fort. Ouais. Donc ensuite, donc toi déjà, t'es désarçonné, parce qu'il est sur plein de niveaux de volume différents. Ouais. Mais après, sur sa définition justement de l'amour, ou je sais plus, le fait que l'être aimé fait caca, ou un moment où on a de parler de ça, en fait, c'est des choses sur lesquelles il a écrit.
Ouais.
Donc,
T'es sur son terrain.
Voilà.
C'est pour ça qu'il est impressionnant.
Ouais, il est impressionnant. Mais moi, maintenant, ça m'impressionne plus quelqu'un qui est capable de penser au présent. Ouais, tu vois ?
Bien sûr, dans l'instant.
Ouais, dans l'instant. Ça, c'est sûr que ça m'impressionne. Et c'est ce que tu fais sur scène quand t'improvises, d'ailleurs, toi.
Ouais, mais alors après, c'est dans un registre beaucoup plus large et beaucoup plus... Enfin, je veux dire, l'improvisation, elle t'amène à dire des choses qui sont spontanées, mais pas forcément d'une finesse absolue, tu vois.
Ouais.
J'essaye de... Comment on pourrait dire ça ? J'essaye que le truc soit... d'avoir de la vivacité d'esprit quand je... et donc que ce soit pas une débilité juste pour faire rire.
Ouais.
Mais après je sais pas, je prétends rien avec ça, tu vois, c'est juste c'est un échange.
Ouais.
Enfin, c'est plus que ce que je raconte, c'est l'échange qu'on fait avec le public qui est plaisant, tu vois.
Ouais. Et ça t'a donné une fierté quand même de voir ton nom sur un premier roman, ou est-ce que la fierté, ça a été quand tu l'as vu sortir, quand tu as vu l'objet, quand tu as signé le contrat, quand tu as mis le mot fin
J'ai été content, en fait, mais j'arrive pas à avoir le sentiment de fierté ou d'euphorie. C'est un truc qui m'est un peu étranger, ça. Donc, j'étais content, quoi.
Ouais.
Ouais, j'étais content.
T'as pas eu l'impression, quand même, d'accomplir un rêve ? Est-ce que tu as voulu...
Non, parce que c'est... accomplir un rêve, ça voudrait dire que c'est un one shot, c'est le dernier, c'est, tu vois ? Non, je pense que c'est un aboutissement, mais c'est, tu vois, bon...
Le début.
Ouais, aussi.
Ouais. Ce que tu disais dans une chronique, tu parlais d'un film, tu disais si jamais... la deuxième fois que tu restes enfermé dehors, et puis tu disais si jamais je le faisais en film, j'avais l'impression que tu...
Je mettrais cette scène-là,
Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il écrit un film ?
J'ai en tête des idées, tu vois, de film, J'ai en tête une idée d'un film précis, mais je n'ai pas du tout commencé à écrire ni quoi que ce soit, tu vois. Mais bon, tu as peut-être aussi toi une idée en tête. J'ai un scénario, on va dire, mais je n'ai rien écrit, je n'ai pas écrit une ligne, quoi. Mais
c'est hyper dur.
C'est un truc dont je parle, qui pourrait faire l'objet d'un roman aussi, d'ailleurs. J'en ai parlé à mon éditrice l'autre jour, elle m'a dit c'est un super pitch.
Ok.
Mais voilà, quoi. Il y a toujours cette espèce de montagne là, qui semble te... à gravir en face de toi quand t'as une idée. Et t'aurais tellement envie que les gens soient également à fond, rien qu'en leur racontant, tu vois. Et ils sont là, non mais il nous faudrait un truc, un pitch, une bible, tu sais, quand t'as une idée de série et tu travailles la nuit, tu crois que ça va cartonner, tu te dis mais ça c'est tellement une bonne idée, et ils te disent un peu froidement, bah écoute, il y a un process, tu fais une bible, t'écris ton pitch, tu nous fais deux épisodes de 26 minutes puis on en reparle, quoi. Et toi t'es là, mais non mais c'est vraiment une super idée, quoi, je vous jure. Je l'ai peut-être pas bien vendue, là, mais franchement, dans ma tête, elle était trop bien.
Grave. Ouais, c'est dur. Écoute, figure-toi que moi, là, je me venge pas mal en écrivant, parce que plein de choses sur lesquelles j'avais envie d'écrire, et quand j'avais des producteurs qui étaient venus voir mon spectacle de stand-up, qui m'avaient demandé, quelques-uns, est-ce que ça vous intéresserait d'écrire une série ? Je leur avais parlé de cette idée. Et elle fait, bah, non, enfin, certains étaient chauds, d'autres, non, puis, enfin, c'était pas unanime. Ouais. Et puis, globalement, on m'avait même dit, tu devrais plutôt laisser tomber ça, consacre-toi plutôt à là-dessus, l'autre D'accord. idée. Et en fait, c'est l'un des trucs que je développe énormément dans le bouquin. Donc, je me dis, ah, bah, j'avais ouais. raison, j'étais
Donc,
pas.
C'est un truc où tu parles au jeu ?
Ouais.
Ok, ça, c'est dur. Hein.
Eh ben, écoute, en fait, moi, c'est comme toi, c'est un éditeur qui m'a contacté ouais. sur Instagram. Mmh. Là, pendant les. En fait, j'ai passé un casting que j'ai pas eu mmh. et j'étais vraiment super déçue. Et en fait, comme ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait de stand-up à cause ouais. des confinements et que je me retrouvais à être à nouveau que actrice à passer mmh. les castings, je me disais, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi c'est ma vie ? Enfin, je comprenais plus ma vie d'actrice sans le stand-up. Mmh. Tu vois, je retrouvais des trucs dont normalement je souffrais moins depuis 3 ans. Et j'ai dit, mais il faut que je réécrive, sauf qu'il n'y avait plus stand-up, et je sais plus. Et c'est mon psy, ou je sais pas comment, le roman, mon psy m'a dit, bah, faut écrire, et moi je l'ai dit, bah, ça va être un roman. Je l'ai dit dans le podcast avec Laura Domange, et ensuite cet éditeur m'a écrit, D'accord. et il m'a dit, oui, j'ai écouté votre podcast, et je pense que vous avez un livre. Super. Et ouais, donc c'est pour ça que je suis aussi curieuse d'en discuter avec toi, parce que du shift. Et au départ, lui, il m'a encouragée vers le jeu. Quoi. Il m'a dit, voilà.
Là, je pouvais pas, tu vois.
Ouais.
Non, j'arrivais pas. C'est une question qui se pose pour le prochain.
Ouais.
J'en ai déjà écrit 70 pages, mais en fait.
Ouais,
mon éditrice me dit, ce bouquin, en fait, c'est un jeu déguisé, donc à un moment donné, il faut l'assumer, tu vois. Comme là, c'est un peu un jeu déguisé, même s'il y a plein d'histoires qui ne sont pas de l'ordre du jeu, c'est pour ça que j'ai fait du heel. Et que de toute manière, même ce qui, là, je parle à un moment donné des branlettes collectives,
ouais.
qui est un truc de gosse, qui est un truc d'ado, qui est un truc de garçon, quoi,
ouais.
qu'on a un peu tous fait.
Ouais.
J'arrivais pas à l'écrire au jeu, même si c'est vraiment. Si tu vois la scène, tu vois qu'elle est vécue. Si tu veux.
Bien sûr. Complètement.
La cassette, ouais. les copains.
Pamela Anderson.
Les petits coulins d'œil sur les sgegs des copains à côté, ouais. etc. Tous ces trucs-là. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'écrire au heel ce genre de scène, tu vois.
Ouais.
Mais je t'encourage, évidemment, à écrire au jeu, parce que j'ai l'impression que si la question ne se pose pas, il faut y aller, en fait. Pose-toi pas une question que tu ne t'es pas posée.
Si
spontanément, tu veux écrire au jeu, fais-le. Quoi.
Non, au départ, je me suis posé la... En fait, moi, ce n'était pas admiration, au contraire, pour les gens qui arrivent à écrire à la troisième personne. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me disais... Je sais pas si j'aurais la capacité d'imaginer ou d'inventer des choses qui ne me sont pas arrivées.
Ouais.
Et pour moi, si j'avais pas écrit vraiment jusqu'à présent, c'est que je pensais pas en avoir le talent. Tu vois, pour moi, il y avait les écrivains pour le coup. Tu vois.
La fameuse phrase, ouais, mais écrire, c'est un truc d'écrivain.
Ouais.
C'est à quel moment t'en deviens, tu vois.
Ben ouais. Mmh. Mais c'est tout ce truc-là.
Il y a un vrai complexe, parce que être écrivain, enfin écrire un livre, avant même de se dire écrivain. Le livre est tellement un objet magnifié, parce que ça, on peut en sortir beaucoup de choses. Et en fait, je vois que tu es une grande lectrice.
Ouais.
Plus t'en lis,
plus tu
te dis, putain, mais j'arriverai jamais à écrire un truc comme ça. Quoi.
Ouais.
Moi, quand j'ai arrêté de lire des bouquins, quand j'étais en train d'écrire le mien.
Ah.
Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais non, en fait, c'est pas possible.
Ouais, c'est trop
tu
dur.
Lis du Emmanuel Carrère, ça va tellement profondément dans l'homme que t'es pris, t'es dedans, tu te dis, putain, mais quelle justesse. Tu sais, c'est tous ces livres où tu relis des phrases 2-3 fois et tu te dis, mais comment il a réussi à mettre des mots sur un truc que j'ai... Et quand
fort.
On me dit, parfois, c'est ce que tu m'as dit au début, il y a des scènes que j'ai vécues, c'est un beau compliment, tu vois, parce que tu te dis, ah, ça a parlé à quelqu'un. Et moi, j'ai eu un déclic avec la lecture de Fief de David Lopez.
Ok.
Fief, qui a été le prix Inter en 2017, je pense, qui a un bouquin sur la France périphérique, mais une France plus de banlieue, un petit peu éloignée de Paris, mais quand même en région parisienne, si tu veux.
Ok.
C'est un peu des tours au milieu des champs, quoi.
Ok.
Et il dit, on est trop urbain pour être des paysans, mais on est trop paysans pour être des Caïras, tu vois.
Ok.
Et son truc, il est écrit d'une manière hyper... c'est presque un argot, si tu veux.
Ouais.
Et moi, je me suis dit, en lisant ça, je me suis dit, putain, nous aussi, on avait un vocabulaire qui n'est pas un vocabulaire de roman, mais qui était tellement fort que j'ai envie de l'écrire.
Ouais. Et tous les mots de gitan et tout.
Les mots de gitan, on parlait comme des gitans. On n'avait pas foutu les pieds dans une caravane. Et je te jure, moi, ma mère, elle est institutrice, c'est tout. Tu vois, j'étais 2 mois. J'avais un mois extérieur et un mois chez moi. Un mois sage et un mois de voilà. Et en fait... Je me suis dit, en lisant ça, je ne cherche pas forcément une littérature d'histoire, mais une littérature de moment.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, une littérature d'histoire, c'est une littérature qui va t'amener d'un point A à un point B avec une intrigue à résoudre, etc., une fin, machin. Et pour moi, la littérature de moment, c'est la littérature, c'est le tableau, c'est le parfum d'un endroit, c'est toutes ces choses-là, en fait. C'est des scènes, mais qui ne vont pas forcément t'amener dans une histoire incroyable, mais qui vont te faire un peu... qui vont te toucher, quoi.
Ouais, revivre des sensations.
Qui vont exprimer chez toi des choses qui vont aller mettre un doigt sur un truc que tu as vécu. Et en fait, c'est Edouard Baird qui dit, c'est en parlant des petites choses qu'on touche à l'universel, tu vois.
Ouais,
il dit ça dans un... Je crois que c'est... Je ne sais pas dans quoi il dit, mais je l'ai entendu dans Bon Entendeur, tu sais.
OK. Ouais.
Il dit ça, et à un moment donné, je me suis dit, ah, putain, cette phrase. Effectivement, c'est ça. Et dans les chroniques radio, je fais un peu la même chose.
Ouais.
Je ne cherche pas à... Parce que je ne sais pas faire. Parler de politique, de sujets de société, tout. Je ne suis pas à l'aise. Hein. Ce n'est pas vraiment mon truc. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à affirmer le fait que ce n'était pas mon truc. Mais une fois que c'est affirmé et que ton truc, c'est de parler de choses banales, mais en fait, c'est beaucoup plus... T'es plus à l'aise. Il faut trouver sa voix, en fait. C'est dur.
Ouais, mais d'ailleurs, ça me fait... Ça me rassure beaucoup. Ça me fait du bien, ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi aussi, je pense que c'est plus... Mais mon éditeur aussi sur les premières pages que là, j'envoie. Ouais. En effet, je vois que celles qui sont le plus efficaces, c'est quand il y a des moments, plutôt que quand j'essaie d'englober dans une espèce de chronologie des trucs où ça devient un peu lourd. Enfin, par contre, ce que je sais, c'est que... Enfin, le truc que j'écris, là, je ne l'écris pas très bien.
Oui, mais tu le repasseras. Puis tu auras une aide d'un éditeur qui va peut-être reformuler certaines choses. Mais en plus, ce n'est pas grave. Hein.
Ouais.
Tout est acceptable, tout est recevable.
En fait, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, ne cherchez pas à écrire bien.
Non.
Voilà.
Donc, il y a tellement de romans où tu te dis, putain, il a cherché à nous faire
une belle phrase. Ouais.
Même moi, je m'en veux sur 2-3 phrases. Je me dis, ah, t'es allé un petit peu loin parce que j'ai ce côté, j'aime écrire des belles phrases.
Et ouais.
Mais je ne veux pas que ce soit un truc... C'est pas une démonstration de je sais écrire, tu vois, à la rigueur.
Mais c'est surtout sur la première partie où on est, moi j'étais impressionnée par le style, je me disais, oh putain, dis donc, c'est. Et sur la deuxième peut-être, ou en tout cas, moi j'ai eu l'impression de voir des moments où le vécu m'apparaissait, que je me disais, tiens, les phrases sont plus courtes, où on va plus vite parfois.
Il est vraiment en deux parties, le premier truc est tellement. Comme tu dis, un tableau, qu'on est dans le descriptif. Le descriptif, il a besoin de détails, de précisions, de créer une atmosphère. Et l'autre, après, on est dans une action.
Ouais.
Une action. Hop.
Ouais.
Il va se passer un truc. Et là, hop, ça s'enchaîne, etc. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est vraiment... Ça rétrécit autour d'un personnage. Et là, on va vers un... Mais au début, on est large.
Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant ce que tu dis sur les moments, parce que moi aussi, c'est quelque chose qui me bloquait. En fait, moi, quand j'ai découvert Balzac au collège...
Ouais, t'as fait une indigestion, c'est très compliqué.
Hein. Ah non, moi, j'ai adoré.
Ah ouais,
j'ai tout lu, vraiment, toute la Comédie humaine, d'accord, pratiquement. Peut-être qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas lus, mais j'ai fait Illusion perdue, Splendeur et misère, Eugénie, la totale. Je me disais, c'est super, mais je ne serais pas écrivaine. Je me disais, c'est le... Enfin, je me suis dit... Je pense que moi, c'est ce qui a nourri mon sentiment patriote français, c'est d'aimer autant Balzac et de me dire, on a ce génie en France. Et en même temps, je me suis dit, bon, bah, c'est ça, la littérature.
Ouais.
Et après, jusqu'à présent... Mais parce qu'en effet, c'est des histoires, en effet, avec des événements. Et après, heureusement, peut-être le XXe siècle, on est moins obligé d'aller raconter un truc avec un début, un milieu, une fin.
Ouais.
Et peut-être que déjà ça, je l'avais amorcé quand même, peut-être toi aussi, avec le stand-up, où finalement, dans les spectacles, il n'y a pas, à l'inverse de spectacles de théâtre, où maintenant, je me suis rendu compte que même au théâtre, quand on me propose une résolution, ça ne m'intéresse même plus trop, quoi. Et machin, et fini, et puis truc, et puis machin, et puis tous les...
Oui.
Je me suis habituée au stand-up où, en fait, tu découvres un personnage et t'as pas besoin que ça finisse mal ou bien. Ou en général, quand il te propose une petite morale à la fin, moi, ça me dérange plutôt. C'est quoi
Le petit truc attendrissant, moralisateur,
les uns les autres.
Un peu Télérama derrière.
Ouais.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai le sentiment que les gens qui ont besoin de ça ont presque besoin de justifier qu'ils ne sont pas débiles et qu'il y a un truc dans leur discours, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu complexé.
Ouais. Mais...
Et le stand-up, ça t'a... Parce que pour le coup, ton écriture stand-up, c'est quand même assez différent. Là, c'est... Mais tu as senti que ça t'avait aidé quand même... l'humour.
Mais en fait, c'est marrant parce que tu citais Balzac.
Ouais.
En fait, moi, je n'ai lu que les classiques qu'il fallait lire pour le bac.
Ouais.
Et j'étais très content d'avoir Germinal le jour du bac parce que j'avais vu le film.
Ah, putain.
Parce qu'en fait, je lisais, j'aimais les phrases, mais je comprenais rien. En fait, je m'identifiais pas du tout.
Ouais, mais Zola, je suis pas une grande.
Non, moi, Zola, oui.
Ah, Zola, t'aimes
bien. Bien sûr, ouais. Zola, parce que en fait, Zola, c'est social, tu vois.
Oui, c'est social.
Donc ça me parlait.
D'accord.
Ça me parlait, mais alors Balzac, Flaubert, encore pire. Hein, Flaubert,
ah bon,
ouais. Je bitais rien, quoi. Puis alors, il y a peut-être l'ambiance de groupe aussi. Moi, j'étais dans un lycée dans lequel on glandait rien, tu vois.
Ouais.
Ben, on allait fumer des ouinges dans les chiottes du tribunal, dont je parle dans le bouquin.
Ouais.
Et donc.
Oui, il n'y avait pas l'émulation.
Bah non, c'était au contraire naze d'être. De lire, quoi.
Ah, tu vois,
bah ouais, le premier acte de rébellion, c'était de rien en avoir à foutre et puis de ne pas lire les trucs que la prof donnait à lire. Et je n'ai pas vu un élève se passionner pour ça. Ou alors, il faisait chez lui en cachette, mais personne lisait dans le bus, machin et tout. Il y avait un côté. C'était l'apologie de la glande et de rien foutre et d'être le pire et puis d'avoir le bac avec le moins de points possible, juste, tu vois. Enfin, bref. Et donc, moi, j'ai eu vraiment un rejet de la littérature dans un premier temps, classique, etc. Ça ne me parlait pas du tout, quoi.
Ah.
Et après, j'y suis retourné par la littérature de voyage.
OK.
Par Sylvain Tesson.
Ouais.
Par Bernard Olivier.
D'accord.
Par Alexandra David-Nel.
OK.
Par Ella Maillard, des gens comme ça. Alexandre Poussin et tout. Enfin, c'était récit.
Je connais pas du tout.
Ben voilà, mais c'est pas prétentieux, si tu veux. C'est Africa Trek, par exemple. Ils ont traversé l'Afrique à pied.
Okay.
Voilà, bon, 15 000 km de l'Afrique du Sud à l'Égypte. Voilà, tu lis ça, t'es avec eux, etc. C'est une histoire, simplement. Y a, les personnages, c'est eux, ils racontent, puis ils rencontrent des gens. Ben, moi, ça m'intéressait, tu vois, ça me faisait voyager et tout. Et puis après, de cette littérature, je me suis dit. Putain, il y a des choses que tu peux faire, en fait.
Ouais.
Et j'ai fait un grand voyage comme ça.
Mmh.
Je suis parti à pied en Chine avec un copain.
Putain.
En 2005-2006. J'ai parti un an.
T'es parti à pied en Chine, de Paris ?
De Angers.
De Angers, ouais. T'as marché jusqu'à Pékin ?
Ouais, avec un copain, ouais.
Waouh.
Et donc, en fait, on a fait ça parce que je m'étais dit, tiens, il y a un truc qui est... la littérature rend accessible certaines choses, parfois, tu vois ?
Mmh.
Et en fait, Fief, c'est pareil. Je me suis dit, putain, je peux écrire un truc dans ce style-là. Mmh. Tu vois. Puis après, tu vas vers d'autres choses.
Mais oui, en fait, moi, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, quand tu vois un truc trop au-dessus, eh ben, tu te dis, c'est impossible. Et parfois, quand tu vois un truc un peu en dessous... Moi, Balzac, je me disais, bon, bah, c'est... c'est inimaginable, je ne serais pas... Enfin, je jamais... Mais au départ, moi, ça m'a fait ça avec le stand-up. La première accès que j'ai eu avec le stand-up, c'est Louis C.K.
Ah,
donc,
oui.
Je voyais des vidéos sur Internet. Tu voyais même pas Netflix. Et je me disais, bon, c'est un génie, mais c'est impossible d'avoir ce talent-là.
Ouais.
Et en fait, c'est quand, il y a 3 ans, je suis allée voir un spectacle avec une amie d'un humoriste et j'ai trouvé ça pas mal.
Ouais.
Mais pas terrible.
Okay,
pas
que bien, c'est accessible.
Je me disais, ah oui, bon, en fait, je peux le faire, moi, raconter aussi ma vie. Et là, le livre, est-ce que pour le déclic de me dire que c'est possible, je pense que je l'ai pas encore. Je fais juste confiance à l'éditeur.
Ouais, mais tu vois, moi, ce que je vois, ce que j'observe chez toi, c'est que on n'a pas du tout ce sentiment de doute chez toi, alors qu'il est présent.
Ouais.
Mais quand tu signes ton contrat d'édition, moi, j'ai signé mon contrat, j'ai rien mis, je n'ai pas fêté ça, j'ai pas mis ça sur Instagram, je ne célèbre pas ces choses-là, tu vois, parce que. Je me dis, attends, écris-le déjà. Là, le bouquin, j'en parle parce que je considère qu'il est... Il vaut ce qu'il vaut.
Tu sais, moi, je me dis, bon, de toute façon, pour écrire, il va falloir disparaître des réseaux. Comme j'y étais tout le temps, tous les jours, pratiquement, je mettais tout le temps tout. Mmh. Je me suis dit, mais là...
Pourquoi tu veux disparaître ?
Bah, parce que pour l'écrire, je ne peux plus faire des stories à gogo. Enfin, tu vois, je dois totalement...
De toute façon, les stories à gogo, t'en faisais à gogo ?
Ah ouais.
Je ne regarde pas les... Je suis pas très...
Ah si, moi, j'étais addict au réseau.
Mais moi, je regarde beaucoup Instagram, par contre, mais j'ai une consommation très, je crois, égocentrée, autocentrée d'Instagram, quoi. Parce que je regarde un peu le résultat de ce que j'ai mis.
Ouais.
Au moins, je l'avoue. Hein. Je crois que beaucoup de gens le font sans trop l'avouer. Mais j'ai assez peu de... Je regarde vite fait les 2-3 premières.
Ouais.
Je pense, comme on communique pas souvent sur Instagram, les tiennes n'apparaissent pas.
Ouais.
Je vois souvent les mêmes.
Ah ouais.
Des gens avec qui je communique le plus. Et je fouille pas après.
Ah ouais. Non, moi pendant un temps, si, j'allais voir pas mal de stories. de plein de personnes. Et puis moi, je passais ma vie sur les premiers confinements. En plus, je faisais une vidéo par jour petits personnages, de machins avec des filtres.
Oui, ça, j'ai vu un petit peu,
ouais. J'arrêtais pas. Et puis, je racontais ma life de façon. Si je rencontrais j'étais allée porter plainte au commissariat de Bagnolet parce que fraude sur Internet. J'avais trouvé le flic beau. J'avais fait 15 stories pour dire.
Dans quel but?
Mais je racontais, parce que j'avais d'interactions avec les gens, je disais alors voilà, et je racontais la rencontre avec ce flic.
Ça te nourrit, ça te fait du bien.
C'est pour
gagner des abonnés. C'est...
En fait, au départ, c'était parce que ça m'amusait de. Déjà, il n'y avait plus trop le stand-up aussi à ce moment-là. Ça m'amusait de mettre en scène un peu. J'étais admirative de ceux qui savaient bien le faire. Au départ, je sais plus, je crois que c'était un moment Romane Frécinet. Je regardais ses stories et je me disais, putain, mais il est trop drôle en story, c'est des petits films. Je regardais Laura Felpin, je me disais, elle est trop drôle. Je faisais Hakim Djemili. Et donc, je voyais plein de gens que je trouvais hyper habiles et inventifs avec Instagram. Et je me disais, ah, moi, j'aimerais bien. Au départ, je trouvais que Alexandre Kominek, il faisait des vidéos trop drôles. Et je me disais, comment il arrive à faire des vidéos aussi drôles? Donc, j'avais envie. Et au moment où j'ai compris, je l'ai développé à fond.
Est-ce que tu étais à l'aise quand tu le faisais?
Au début, non. Et puis ensuite, de plus en plus. Et en ayant de la réactivité de la part des gens. Et ensuite, en croisant la plupart des gens sur Instagram avec les auditeurs du podcast, c'est aussi ce qui, là, me donne la possibilité d'écrire au jeu. C'est que je me dis, OK, quand j'écris, je m'adresse. Oui. J'imagine que c'est tous ces gens qui me répondaient ou qui m'écoutaient. Ça me facilite l'adresse au lecteur. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée d'avoir posté « ça y est, je viens de... » Parce que ça se trouve, je ne vais pas le faire, ce bouquin. Et ça sera genre juste une espèce d'échec mis en scène devant...
Non, parce qu'en fait, en le faisant, peut-être que tu te forces à le faire maintenant.
Peut-être, ouais.
Mais il ne faut pas cacher les joies qu'on a. Je veux dire, si c'est dans ta nature, fais-le. Pour moi, le seul truc, c'est de ne pas faire de choses contre nature.
Ouais.
Tu ne peux pas te fatiguer à vouloir... et à perdre du temps pour un but qui n'est pas celui que tu...
Non, mais...
On a tous peut-être en tête des trucs, mais il faut reconnaître que certains ont plus de talent pour une chose que pour d'autres.
Ouais.
Et on se libère d'un poids dès lors qu'on l'accepte et qu'on se dit, mon talent n'est pas là, tu vois.
Ouais.
Je veux dire, il y a des gens qui émergent sur Instagram, ils font du stand-up aussi. Au bout d'un an, ils sont 10 fois plus connus que toi. Toi, ça fait des années. Eh bien, c'est pas grave, en fait.
Ouais.
Franchement, je pense que c'est pas grave. Du moment que tu fais des choses qui à toi te pensent, enfin t'amusent, te font plaisir, te correspondent.
Bah après moi c'est à mon petit niveau, hein. Tu vois j'ai 7000 personnes, c'est pas, tu vois il y en a c'est devant des milliers, des milliers de.
Ouais mais donc, je pense que ça ne trompe pas, c'est parce qu'à un moment donné ils le font bien et tu vois, je veux dire les gens qui font du marketing sur Instagram là, comment on appelle ça, des Instagrammeurs, enfin
des influenceurs,
des influenceurs, voilà. Mais ça correspond à pouvoir faire ça, ça dit beaucoup de choses de toi, déjà d'une part, mais ça correspond à un intérêt pour certaines choses. Sans doute à un intérêt pour des marques, pour des produits ou pour l'argent, ou les trois à la fois, tu vois.
Ouais.
Mais si t'as pas l'intérêt pour ça, et si je pense que les gens vont le voir en fait.
Ouais.
Donc, le chiffre de gens qui nous suivent sur Instagram ne dit pas tout, tu vois. Heureusement, d'ailleurs.
Ouais.
Mais c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est dans une course quand même.
Ouais,
tu vois
ouais.
Et c'est terrible parce qu'il y a des gens extrêmement talentueux qui vont rester un peu en marge de ça.
Ouais.
Tu vois, parce que aujourd'hui, forcément, plus t'en as, plus t'es suivi, plus ça crée un effet boule de neige, tu vois.
Ouais.
En fait, je pense que aujourd'hui, on vit quelque chose qui est. Enfin, nous, notre métier, c'est un ascenseur émotionnel en permanence.
Ouais.
On est devant, on est dépassé, on est derrière, on croit qu'on va être oublié, etc. Donc, il faut produire, il faut créer, mais il faut aussi, prendre du recul, quoi.
Ouais.
Sinon, c'est dangereux.
Mais après, toi, tu l'as extrêmement bien géré sur YouTube, par exemple. Sur YouTube, l'habitude que tu as prise de mettre ton téléphone au point virgule avec le petit truc pour accrocher, de filmer chaque représentation, de derrière... prendre ce pli d'improviser sur un fait d'actualité, de le monter derrière, de le mettre et d'avoir des 40 000 vues, etc. C'est génial. Et peut-être que tu vois, tu l'as testé, c'était pas à la base, tu savais pas d'emblée que ce serait ton talent.
Non, c'est venu
d'un coup. Ouais, tu l'as découvert que ça t'amusait et que t'étais fort à ça. Il ne faut pas présumer non plus, parfois, ça se trouve, demain, tu vas devenir un immense Instagrammeur. Tu sais pas. Peut-être. Si tu trouves un truc qui t'amuse et que... C'est...
Ah oui, s'il y a un truc qui m'amuse, oui, je le ferai.
Bah ouais.
Là, j'ai fait des trucs qui s'appellent running workout, où je cours et je fais un peu un coach sportif dans les rues de Paris, et c'est complètement décalé comme truc, etc. Et les gens ont bien aimé, j'en ai fait deux. Après, j'ai fait un truc où je vends des apparts, je fais agent immobilier, je sais pas si tu l'as vu.
Non.
Et bon, voilà, je vends des apparts, je fais le mec, je joue l'agent immobilier, quoi.
Ok,
et
trop bien.
Et c'est très décalé, etc. Et là, j'en ai fait un où je vends carrément un théâtre, parce que je dis, ben, comme il n'y a plus de théâtre, maintenant on les convertit en maison d'habitation et tout, machin. Et ça, c'est des trucs, tu vois, c'est des idées qui me plaisent, donc je le fais, quoi.
Bah ouais, mais ça, c'est franchement, moi, je trouve ça génial. Je trouve que de se dire qu'on peut faire des petits films d'une minute qui puissent être aussi rapidement vus. Moi, ça vient combler un complexe que j'avais, parce qu'avant de faire du stand-up, j'avais réalisé un premier court-métrage et ensuite, j'en ai écrit un deuxième. Et pendant 2 ans, je le développais, j'ai essayé de le faire financer. Je galérais et ce film n'a pas vu le jour, ce moyen-métrage. Et à côté de ça, j'avais des amis qui se lançaient sur YouTube et qui ont cartonné, qui ont rapidement eu plein d'abonnés, etc. Et bon, ils me foutaient un peu de ma gueule. Parce qu'ils me disaient alors, toujours sur le court-métrage, t'attends la réponse de Rhône-Alpes. Et eux, ils étaient là, bah nous, on a tourné ça mardi, on le poste dimanche. Et voilà, et bim, 200. Et donc, et je pense que j'étais jalouse d'eux. Et quand t'es jalouse, c'est toujours un indicateur de quelque chose que tu veux. Et ce que je voulais, c'était pouvoir toucher les gens plus rapidement.
Ouais, mais être jaloux, c'est pas quelque chose d'agréable.
C'est hyper douloureux, mais par contre, je trouve ça très important parce que ça te montre ce que tu désires. Et sinon, on pourrait ne pas l'oublier, on pourrait l'oublier totalement, tu vois.
Je pense que tu n'oublies jamais ce que tu désires.
C'est ah ouais, moi je l'oublie tout le temps.
Ah bon?
Bah,
comment tu peux oublier ce que tu désires?
Bah, par exemple, l'envie d'être comédienne, moi, je sais pas. Parfois, je suis tellement troublée par rapport à ça.
Tu n'es pas en train de reprendre des études pour devenir expert comptable?
Ben non, mais là, en écrivant ou en machin, ou parfois, je sais plus, je voulais plus, je savais plus si je voulais continuer
mais
à passer des castings.
C'est être artiste que tu veux.
Ouais.
Plus qu'être comédienne.
Ouais, ouais.
C'est être artiste.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Après, je pense que la grande recherche artistique qu'on a et qu'on partage, enfin toi, moi et tous les gens qui font de... C'est qu'on cherche à avoir une vie agréable, en fait. Une vie agréable qui... C'est une vie exempte de contraintes imposées par les autres, en fait. Et en fait, notre bonheur à nous, il se trouve dans la création, dans l'indépendance, dans la production de choses comme ça. Et puis aussi dans l'amour qu'on reçoit de nos productions. C'est évident, quoi.
Ouais.
Mais après...
Mais le désir, il change, tu vois, par exemple.
Oui, il évolue.
Il évolue. Ouais. Mais la jalousie est l'indicateur de l'évolution de ton désir. Par exemple, à un moment, je voulais... vachement faire des chroniques sur France Inter.
Ah oui,
je pensais que j'en avais hyper envie. Et je me souviens quand j'ai vu Morgane Cadignan à la rentrée. Ça m'a fait mal.
Je comprends.
Ça m'a vraiment fait mal. Et
parce que tu t'es dit, cette fille-là, on avait peut-être un parcours un peu similaire, des envies similaires. Tu t'es dit, j'aurais pu aussi le faire.
Oui, ça m'a rendu...
Comprends.
Donc, je l'ai eu. Et puis, Morgane, je ne l'ai pas dit, peut-être qu'elle écoutera cet épisode, je ne vais pas couper ce moment.
Non.
La jalousie était quasi intenable.
Ah oui.
J'ai eu 2 semaines où j'étais obsédée.
C'est fou.
Au point que j'ai limite, alors que j'ai un psy, j'ai fait l'appel du genre d'une psy externe.
C'est vrai.
Que j'ai vu un peu en crise.
Tu as eu
quoi.
Honte de dire ça à ta psy?
Non, mon psy. Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment. Mon psy. Je lui en ai parlé aussi, mais c'est juste que c'était une accumulation de plein de choses qui n'allaient pas. Et on m'avait parlé de cette nana qui faisait un truc un peu plus comportementaliste, un peu plus... tu fais une séance, elle te dit direct.
Okay.
Or que moi, mon psy, c'est, tu vois, des années
travail de longue haleine.
Voilà. Donc je me suis dit, ça se trouve, je vais l'appeler et puis elle va tout me résoudre. Et puis, en effet, elle m'a dit, bon, alors, des trucs très concrets, voilà, vous êtes abonné à toutes les notifications de France Inter et de Morgane Cadignan, ouais. etc., pendant un temps, même si c'est votre amie et que vous l'appréciez, et que ouais. vous aimez, mettez tout en sourdine, okay. comme ça, vous y penserez moins, bien etc., sûr. Au quotidien. Donc, j'ai tout mis, je me suis ouais. mis, et puis...
Tu nies la réalité, là.
Voilà, j'ai nié la réalité okay. pendant un temps. Je me suis dit, ok, bien, j'écoute plus la radio, je, mmh. voilà, machin, pour moins ouais, oui. être moins jalouse, quoi. Ouais. Et puis, en effet, avant, j'admirais Marina Rollman, mais je la trouvais tellement...
oui, qu'il n'y avait pas photo.
Bah non, je ne me mettais pas en rivalité, voilà, avant, voilà, etc. Mais alors que Morgane, tout d'un coup, c'était... Ah bah non, donc j'aurais pu, c'est elle, ouais. c'est pas moi. C'était, ouais. Je le vivais, je l'ai vécu comme si on me disait « pas toi ».
Je suis sûr que ça t'a fait accélérer le podcast, ça t'a fait...
Clairement, ouais. ça m'a fait... Je me suis dit, eh bah, puisque c'est ça, et bah...
Je serai la première à faire un bouquin des deux.
Non, 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 mais pas... Mais en tout cas, là, maintenant, quand je vois des trucs sur mon fil de Chronique France Inter...
Ça te fait plus le petit truc au cœur.
Ça me fait plus le petit truc au cœur, okay. je suis moins jalouse, et donc je pense que c'est parce que je le désire moins. Tu vois ?
Ouais, t'as appris à vivre avec, je pense.
Et qu'aujourd'hui, je sais même pas si on me disait est-ce que tu veux ? Oh, je pense que je dirais oui, parce que qui refuse ? Mais ouais. tu vois, c'est pas au centre de mes... tu vois ? Et donc j'ai l'impression que quand la jalousie, ouais. en fait, ça te dit l'endroit où t'es de... Mais... Toi, t'as jamais ressenti ça tout...
Si, bien ouais, sûr, ouais. mais... en fait, moi, je crois que j'ai tellement eu le sentiment de ne pas avoir de chance... En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, c'est un auteur qui s'appelle Bertrand Leclerc qui dit ça, il dit « Ne pas être à sa place, ne pas la trouver, cela entraîne une sensation bien plus encombrante encore, celle de n'en avoir aucune. »
Waouh !
Et en fait, cette phrase, pour moi, elle résume toute mon adolescence, toute ma jeunesse, etc. Et en fait, toute mon adolescence, on va dire, entre 15 et 28 ans.
Okay.
Et la découverte du stand-up à 28 ans, à balayer tout ça d'un coup, parce que je me suis dit, ça, je peux. Et ça a été thérapeutique ouais. avant tout, quoi, tu ouais. vois. Et puis, j'ai été tellement heureux d'avoir trouvé ce qui me plaisait que le reste m'atteignait assez peu et que la réussite des autres dans le stand-up, finalement, me faisait... faisait dire, j'ai déjà tellement de chance d'avoir trouvé oui. ça que forcément, il y a des gens qui seront meilleurs que moi, là. Oui. Mais... bon, faut le reconnaître aussi, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui sont vraiment talentueux.
Ah bah oui. Quels sont pour toi les phénomènes dans le stand-up ? Quels sont pour toi les humoristes que tu les trouves phénoménaux ?
Il y a objectivement des gens qui sont phénoménaux par les chiffres, on va dire.
Mais toi, ton goût ?
Ah, moi, j'en regarde pas du stand-up, pour ainsi dire. Je vois des gens que je trouve forts, mais... J'ai écouté le podcast de Fanny Ruette avec ouais. Aymeric Lompré. Et oui. il dit à un moment donné, il dit franchement, le stand-up, si j'en faisais pas, je crois que je m'en foutrais. Quoi. Ouais. Et moi, c'est un peu pareil, si tu veux, dans le sens où il y a des gens qui sont doués et tout, mais ça ne me passionne pas outre mesure, tu vois. Et il y a des gens qui me font marrer hors du stand-up, ouais. etc. Il y a des, je sais pas, c'est pas une forme d'humour dans laquelle je trouve beaucoup de noblesse, tu vois.
Ah ouais ?
Ouais. Après, c'est vrai que quand je vois, moi je fais des chroniques, et je vois les chroniques de Thomas VDB, je le trouve très fort
ouais,
en chronique.
Ouais, très fort.
Je peux pas nier que...
Marina Rollman
est forte, justement dans les faits de société, elle est forte, elle excelle.
Ouais, incroyable.
De prendre une position, de trouver... C'est assez lumineux parfois.
Ouais, ouais.
Là, oui, effectivement. Mais justement, Aymeric, je le trouve très fort dans le personnage qu'il est.
Ouais.
Dans le personnage qu'il assume, etc. Je trouve que Guillermo est fort. Je trouve oui. que je suis entouré de gens talentueux.
Oui.
Ça, c'est une certitude.
Ça, c'est sur les chroniques.
Et Roman
mais...
est très fort.
Ouais. Tu dis Roman Frayssinet ouais. dans le stand-up ?
Dans Click, ouais. dans le stand-up. Tu vois,
non, mais dans sur scène, dans les humoristes qu'on côtoie, quand on se croise sur les plateaux, est-ce que ça t'arrive de voir quelqu'un et, derrière qui tu flippes de passer ?
En fait, c'est plutôt une ambiance, c'est-à-dire qu'au Paname, tu vois, c'est un peu dur parce que le Paname, c'est un truc de l'efficacité.
Mm-hmm.
Et moi, je crois que la conséquence directe du Paname qui m'a fait prendre conscience de ça, même si je le savais un peu, c'est que quand on a fait le Paname qui est passé à la télé, là, le dernier, j'ai fait un sketch que je n'ai pas du tout joué comme je le joue sur scène quand je suis avec le public qui vient me voir, où je suis à l'aise, où je prends mon temps et tout. Là, j'étais dans un rythme qui n'était pas le mien, un rythme un peu de vouloir un peu retourner la salle. Et ce n'est pas du tout mon truc, tu vois. Ce n'est pas ma façon de faire du stand-up, tu vois. Et donc, parfois, cette recherche d'efficacité, quand on est en groupe, fait que bah, tu fais plus les choses comme tu devrais les faire. Et c'est pour ça que j'ai un peu envie de prendre du recul par rapport à ça dernièrement. Et j'aime bien les gens qui arrivent sur scène et qui s'en foutent, qui font leur truc à leur rythme, etc. Et c'est là aussi où je me dis, pour les filles, ça ne doit pas être évident. Parce que vous n'avez pas forcément ce rythme qui s'accompagne d'une certaine virilité, parfois scénique. Et qui fait que l'efficacité n'est pas la même. Tu vois, quelqu'un comme Tania Dutel, quand on la voit en plateau passer au milieu de mecs, c'est pas la même chose que quand tu vas la voir au point virgule, tout son spectacle, et tu vois comme elle est, comme c'est fort, comme c'est bien, tu vois. Moi, mon image, elle change, c'est pour ça que je pense qu'il faut encourager les gens à aller voir des spectacles du maire.
Et encore, Tania, elle a trouvé son autorité et son rythme sur scène, mais c'est vrai que le stand-up demande pas mal de testostérone, parce qu'il faut arriver à prendre le pouvoir, surtout le plateau, et puis tenir les gens et assumer que t'es là pour les faire rire, et les gens sont là pour rire, donc ça demande une espèce de...
C'est à nous d'inventer le stand-up qu'on veut faire aussi.
Ouais. Bah moi je le vois ces deux énergies, c'est-à-dire que parfois j'ai l'impression que quand je mets plus sur le spectacle et parfois un peu en plateau, mais si jamais ils sont avec moi, je peux me relâcher et aller dans des choses très petites et très personnelles. Mais si je sens que leur attente n'est pas moi, et j'ai l'impression vraiment limite de me créer des muscles pour aller les porter dans un truc un peu ce que je veux dire, je m'invente un truc que je suis pas, mais je me dis c'est comme ça un peu en changeant ma voix, limite en gueulant, que ça va se réveiller, qu'ils vont...
Mais c'est à la fois une bonne école, parce que c'est une école de voilà, c'est un vrai public qu'on a en face, donc il faut les faire rire. Faut pas chercher d'excuses non plus.
Non.
Si tu fais rire, tu fais rire. Si tu fais pas rire, tu fais pas rire. Ça reste la base de l'humour.
C'est clair.
Mais il faut pas changer qui on est pour plaire à un public donné ou à une ambiance particulière. Tu vois, quand tu me parlais des rouleaux de jambon au début, j'ai commencé avec un sketch comme ça, le sketch des rouleaux de jambon, qui est un sketch que... J'ai été bête de ne pas le capter à la télé.
Ouais, c'était trop bien.
Parce que mais en fait, j'ai un peu arrêté de le faire parce que c'était un peu un sketch... comment j'appellerais ça ? Un sketch un peu... qui n'était pas moi, c'était un peu presque un personnage, si tu veux, quoi. Et puis bon, après, moi, je voulais pas faire une heure d'un mec qui n'est pas moi. Donc, j'ai un peu arrêté de faire ça. Mais c'était un sketch qui retenait. Quand je l'avais fait l'Olympia avec le point virgule, mais j'avais retourné la salle avec ça, tu vois. Puis après, c'est un truc que j'ai délaissé, mais c'est vrai que je pense que c'était un de ces sketchs qui, par exemple sur un Montreux, si je l'avais fait, pourrait avoir cette originalité qui fait que ça marche. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup des choses qui se ressemblent un petit peu quand même. Et puis en fait, je suis tombé un peu là-dedans aussi, tu vois. Donc parfois, c'est bien de se prendre une petite claque en voulant pas. Quand tu te vois à la télé, tu te dis « putain, mais j'aime pas le personnage que je suis devenu parce que j'ai... endosser des codes de stand-up un peu trop à l'américaine qui ne sont pas les miens, en fait, tu vois. Donc...
Oui, il faut résister. Enfin, il faut... Oui, moi, parfois, j'étais dans un... En fait, il faut se trouver. Moi, au départ, je pensais que j'allais dans une énergie hyper froide à la Gaspard Proust, dans un truc un peu cinglant d'humour noir. Et puis ensuite, je suis passée par des trucs très bouffonnesques où je riais tout le temps. Et finalement, l'énergie, je crois que j'arrive à la trouver sur une heure, mais en effet, pas sur... En plateau, c'est très, très rare d'y toucher, quoi. Et puis, c'est des ambiances, mais... là, toi, tu as hâte. Il en est où, ton amour du stand-up, justement ?
C'est marrant, parce que moi, l'absence de scène ne me fait rien, en fait, quoi. Ça ne me touche pas dans le sens où, en fait, je crois que finalement, je me rends compte que j'aime la scène, mais pas au point de... Tu vois, ça ne me rend pas malade. Je fais autre chose, en fait. Ça libère tellement de temps que je trouve ça bien aussi, tu vois. Après, c'est peut-être un peu choquant de dire ça, mais...
Non, c'est courageux d'assumer. Parce que c'est vrai que parmi tous ceux qui pleurent et qui mettent des photos de théâtre vide, sinon, il y en a plein aussi qui sont contre... Moi, c'est le premier confinement, ça m'a fait un bien fou, quoi.
Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. En fait, ce qui est presque rassurant dans le cas ce qui nous arrive, c'est que c'est pas comme si tu ne pouvais pas jouer et que les autres jouaient.
Voilà, tout le monde, personne.
Personne ne joue.
Ouais, ouais.
Donc, il y a un côté, bon, c'est à l'arrêt.
Égalité.
Profitons de ce temps-là, ouais, pour faire autre chose.
Ouais.
Sans oublier les gens qui sont des intermittents, qui galèrent, machin. Ça prive beaucoup de gens de leur gagne-pain. Quoi.
Bien sûr.
Mais voilà, pour répondre, je jouais 4 fois par semaine au point-virgule. Je
ouais.
pense que c'était un rythme soutenu aussi.
Très soutenu, ouais. C'est
plus
énorme.
Plus tous les Panames où j'allais tous les soirs. Je jouais, peut-être, je montais sur une scène peut-être 45 fois par semaine, alors, par mois. Donc il y en a qui adorent ça. Et puis, parfois, tu as envie de souffler. Et puis, tu souffles longtemps. Et puis, tu fais autre chose. Tu trouves de l'intérêt pour autre chose.
Mais c'est énorme. Je te rends compte, 4 soirs par semaine complets au point-virgule, c'est un succès quand même phénoménal. Tu dis que toi, tu as du mal à savoir quand te réjouir, quand à la signature du bouquin ou quand le bouquin... Est-ce que quand même...
Non, mais là, par exemple, je vais te dire... Ouais, mais c'était en temps de Covid. Donc, c'était jauge réduite. J'aurais peut-être pas rempli sinon, tu vois.
Mais si, tu remplissais même avant quand c'était
Je remplissais, mais bon, je sais pas. C'est que pour moi, le succès, c'est juste, attention, ça peut être le début d'un échec, tu vois. Tu peux toujours trébucher, j'ai toujours un peu peur de ça, quoi. Se réjouir, c'est pas un truc... bon, après, c'est, je pense que ça fait partie de l'éducation. C'est... restons modestes, tu vois, soyons... mais c'est maladif presque chez moi, chez mes parents. La pudeur absolue, la pudeur à tout prix. Pour vivre heureux, vivons cachés un peu, tu vois. Donc, voilà.
Oui, c'est sûr que ce n'est pas mon éducation. Moi, c'est plus juif, donc il faut célébrer.
Oui. Ouais.
Il faut célébrer le passage de l'enfance à l'âge adulte.
C'est une vie très marquée par des...
Oui,
des
voilà, profitons, on va bientôt être exterminés, donc jouissons maintenant, vite, fort... Et donc, il faut en profiter. Mais oui, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, en tout cas, c'est tellement dur que quand il y a des trucs qui vont bien, c'est vrai que si, il faut les fêter, quoi. Mais là, aujourd'hui, ton ambition, qui serait la plus folle, ce serait de remplir une grosse salle de théâtre, d'écrire un deuxième roman, de réaliser un film. Est-ce qu'il y a une de ces voies parallèles professionnelles qui t'excite un peu plus que les autres, de continuer à faire des chroniques à la radio?
Un deuxième roman, pourquoi pas, parce que j'ai l'envie, quoi, en tout cas. Après, tu m'as dit quoi? Un film?
Ouais.
Oh, je sais pas, un film, j'ai l'impression que moi, je suis pas dans les... Il y a un peu des gens qui ont les ouvertures. J'ai pas pour ces choses-là.
Ah ouais? T'as pas été approché par des prods?
Jamais, non.
Je te filerai les ouvertures.
Tu sais que t'es la première à m'inviter à un podcast. Hein. Moi, j'ai pas d'ouverture...
Pas en boîte.
Ouais, non, c'est vrai, je suis très peu...
Parce que tu dois intimider aussi.
Tu crois, mais je sais pas du tout.
Si.
Ça m'a flatté d'une certaine manière que tu me proposes. Et puis je me suis dit, oh là là, putain, les podcasts, c'est des trucs. Après, tu dis des choses, c'est figé dans le temps, quoi.
Ouais.
C'est figé. Et j'ai toujours peur que de dire un truc, puis de me dire après, c'était con, en fait, ça. Pourquoi j'ai dit ça, tu vois?
Ouais, c'est le danger du podcast.
Et puis, surtout sur les faits de société ou les positionnements. Quelle position tu as sur tel sujet?
Ouais.
Là, on n'en a pas parlé, tant mieux. C'est pas mon registre, et puis j'aime pas forcément, etc. Ouais. Mais c'est parce que moi, j'ai le côté un peu influençable, tu vois.
Ouais.
Parfois, je vais regarder un mec brillant, je vais dire, putain, il a raison. Et puis après, je vais me le mettre en tête, je vais dire, ah ouais, en fait, mon positionnement par rapport aux migrants, c'est ça. Tu vois, c'est Michel Onfray. Très, très bien. Michel Onfray. C'est un petit peu quand même touchy ce qu'il dit, mais il a raison. Puis après, je vais voir un humaniste, universaliste, et je vais dire, ah mais non, il faut ouvrir nos portes. One planet, one love, tu vois.
J'ai
tellement être influençable que je me dis, ces sujets-là, c'est... Je trouve que les gens qui ont des idées arrêtées là-dessus sont à la fois hyper respectables et à la fois, j'ai envie de dire, ben merde, ça veut dire que tu te fermes à toute autre pensée, tu vois.
Ben c'est très... Le podcast, c'est assez slippery road. C'est un peu dangereux dans le sens où tu te contredis tout le temps, tu changes d'avis.
Voilà.
Oui, en effet. Et puis, c'est pas écrit comme une blague que tu peux assumer et défendre même des années après, parce que tu sais, à force de l'avoir répété, comment, quelle est la prémisse, la page. Là, tu dis... Mais après, c'est l'art...
Faut l'accepter aussi.
Faut l'accepter. C'est l'art de la conversation. Et puis, les gens sont pas forcément... Qui nous écoutent n'ont pas à être d'accord ou pas d'accord. Je trouve les auditeurs de podcasts sont quand même assez intelligents.
Oui.
Ils choisissent, ils sont dans autre chose, ils rêvent, ils écoutent, ils se posent, ils sont pas...
Ils ont du discernement, quoi.
Oui, ils sont pas déjà... s'ils écoutent, c'est qu'ils sont pas devant une vidéo, donc c'est pas aussi la même concentration, le même... Et puis, c'est le chemin d'une discussion, quoi. Moi, ça, au départ, j'ai toujours un peu peur, je me dis, tiens, je vais m'asseoir, j'ai quelques questions, mais au final, je vois où les choses oui. vont aller. Et là, ça fait déjà une heure et demie. Putain. Et en fait, on a discuté, ça pourrait même discuter encore longtemps, mais il faut que je te libère. Mais c'est pour c'est le plaisir.
Ouais, j'ai pas d'obligation. Hein.
À ce moment-là, j'ai failli renverser un vase.
Ouais, après, il y a toujours ce sentiment aussi, je pense, à la fin d'un podcast, de dire, est-ce qu'on n'a pas été un peu lourd, chiant, soporifique, est-ce qu'on ne sait pas un peu... Enfin bref, les gens jugeront, tu vois. Mais ça prend des orientations.
Mais les gens, finalement, sont toujours beaucoup plus bienveillants que nous. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'impression d'avoir dit de la merde ou dit des conneries ou d'être ou trop prétentieuse ou de manquer de confiance en moi, tu vois. Parfois, je réécoute des trucs. J'essaie de ne pas réécouter, mais quand je monte, je me dis pourquoi je me discrédite à ce point ou par le moment, je vais écouter, je vais dire oh, putain, dis donc, la meuf, elle dit qu'elle est intelligente. Bon, en fait, c'est humain. Si les gens, je crois, écoutent des podcasts d'humoriste, c'est pour avoir accès à un petit bout de la personnalité derrière l'artiste, et justement, en fait, c'est l'artiste qui n'est pas fini. Parfois, moi, je trouve ça assez... c'est pour ça que j'ai aimé à un moment, j'ai préféré le stand-up au théâtre. C'est parce qu'en fait, à la fin, ça m'énervait de voir une pièce finie. Oui. J'aurais préféré... Ouais. Et parfois, tu vois, c'est ce qu'il y a de beau dans les plateaux, quand tu chopes quelqu'un qui teste un nouveau bout pour les premières fois, puis il y a juste un tiers qui est efficace, le reste, c'est encore un peu... C'est presque plus intéressant que la version entièrement rodée avec toutes les vannes parfaites, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à gommer les aspérités.
Ouais.
Et en fait, les aspérités, ça fait partie de l'authenticité d'un personnage. Ouais. Et je pense que les gens les acceptent beaucoup plus que ce qu'on ne croit.
Ouais.
Et il y a une chose qu'on a... On a toujours on a une recherche, par exemple, ton podcast avec Antoven, le son est moins bon parce que
la fenêtre est ouverte.
Mais en fait, quand tu as envie d'écouter le contenu, tu oublies complètement que le son est moins bon.
Ouais.
Et je pense qu'on cherche parfois à se trouver des excuses, alors qu'il faut faire les choses, peu importe si c'est bon, si d'autres l'ont fait. Pas si d'autres l'ont fait, mais si d'autres le font mieux, c'est pas grave, il faut le faire aussi toi. Voilà. Et puis, donc.
Ouais, puis c'est clair, c'est aux États-Unis, presque tous les humoristes ont leur podcast.
Ah oui.
Et ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes qui ont un podcast. C'est vrai que déjà, ça permet de créer une communauté, de voir les copains. Tu vois, moi, là, ça me fait aussi plaisir de te voir, de prendre des nouvelles. Mmh. Je veux dire, ça permet de rester connecté, parce que le stand-up, c'est aussi beaucoup ça. Moi, j'avais pas de plateau dans le stand-up. Si t'as un plateau, t'invites tes copains et puis tu te fais inviter. Bon, finalement,
mais c'est très bien ce que tu
fais. C'est après...
Ça te va bien.
Ça permet de garder contact et de... Non, c'est sûr, c'est l'art de... L'art de divaguer. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus dur. Je sais pas comment toi, t'as réussi à t'en tenir. Parce que moi, c'est le truc sur lequel, par contre, je galère en écriture. C'est que je commence à écrire sur un truc, puis j'écris sur un autre truc. Mon éditeur me dit, il faut recentrer, quoi.
Et puis après, je sais pas si t'es ordonné dans ta vie ou pas.
Ça va.
Ouais, parce que moi, je suis désordonné. En fait, j'écris sur plein de trucs et je sais pas où je les mets. Parce que j'écris beaucoup sur papier, en fait.
Ouais. Ah oui.
Donc j'ai des caisses qui traînent, et c'est un bordel monstre chez moi, et j'ai pas de...
Les carnets, ouais.
Donc il y a tout ça, quoi.
Ouais.
Mais de toute façon, moi je trouve ça très sympathique, tu mets bien dans le... C'est marrant parce que toi tu parles beaucoup dans ton podcast.
Ouais, je parle beaucoup
trop. C'est pas grave, hein. Non, moi ça me va très bien. Mais...
En fait, c'est une discussion, mais je regrette toujours, je dois être d'un narcissisme incroyable. Non. Écoute, peut-être que quand j'aurai enfin écrit mon livre.
C'est ton podcast, en fait, ce que tu veux, tu dis ce que tu veux dedans.
En fait, j'aime bien discuter avec l'invité en face, et parfois, je veux pas que la personne s'ennuie non plus, et je veux pas le laisser tout seul dans ce qui pourrait paraître.
Dans des questions ouvertes, et puis le mec.
Je veux pas que l'invité. Et à justifier, c'est aussi un peu pour porter, quoi. C'est pour... Et puis, parfois, c'est pour balancer des conneries qui vont aussi mettre à l'aise en face. Tu vois, quand je raconte que j'ai été jalouse comme ça de Morgane Cadignan, je fais un peu exprès. Parce que je sais...
Ça va tourner, tu veux dire ?
Je sais qu'en balançant quelque chose de profondément intime, ça crée quelque chose chez l'invité qui ensuite va parler un peu différemment.
Ah, ça te fait du bien.
C'est plutôt... la discussion devient intéressante.
Tu veux dire que c'est un peu... Vicieux, presque.
Ouais, absolument.
Ah, tu me manipules, en fait.
Un petit peu.
En fait, tu n'as pas du tout été jalouse de Morgane Cadignan.
Jamais.
Jamais.
À aucun moment.
On sentait rien à battre.
Je vais te poser des petites questions de fin du questionnaire de Proust. Alors, Alexis, quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ?
Je dirais que c'est chez tout être humain.
Ouais.
C'est la présence, quoi, l'écoute, la franchise, l'authenticité, je dirais, tu vois. C'est déjà quatre choses différentes.
Et c'est l'humain, donc c'est chez l'homme comme chez la femme, ouais. Ou t'as des qualités que tu préfères chez les femmes?
Oh ben non, mais moi je distingue pas, en fait. Ouais, non, non, non. Et puis évidemment, les gens qui ont de la luminosité, de la vivacité d'esprit, tu vois, qui comprennent vite, qui tu vois.
Le principal trait de ton caractère?
La maladresse, peut-être, parfois. Enfin, je sais pas. J'espère aussi avoir un peu d'esprit, parfois, quand même, tu vois.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Ben forcément, leur fidélité à l'amitié et leur simplicité. Ce que j'apprécie chez mes frères beaucoup. Et chez mes amis aussi. C'est-à-dire que les amis que j'ai seront les mêmes et auront la même relation avec moi, quoi qu'il se passe dans ma vie. Tu vois ? Et j'aurai la même avec eux. Il n'y a pas de dimension. Ça ne variera jamais. C'est-à-dire que l'amitié, elle restera la même, peu importe l'argent, peu importe ce qui se passe, peu importe tout ça, quoi.
Ton principal défaut?
Je m'enferme dans ma bulle parfois. Je peux donner l'impression de tirer la tronche, par exemple. Tu vois, quand j'ai une pensée, je ne l'écoute plus. Ouais. Alors, déjà, je loue les qualités d'écoute des gens que j'admire, mais j'ai du mal, moi, à l'avoir en permanence, tu vois. Parfois, je zappe.
Ton occupation préférée?
Je crois que c'est lire. Ouais.
Ton idée du bonheur?
Je crois que c'est le moment où tu es en pleine quiétude, en fait, dans un environnement agréable, donc forcément, je pense à la mer, que tu n'as pas de compte à rendre, forcément, tu vois, et que tu fais ce qui te plaît et que, en regardant derrière comme devant, ça va, quoi. Enfin, tu vois, parce que t'es bien entouré, t'as... Enfin, c'est vraiment des choses très terre-à-terre, je pense.
Ouais, mais j'aime bien ne pas avoir de compte à rendre. Je trouve ça très fort, en effet.
Ouais. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de...
Responsabilité.
De responsabilité.
Ouais, bien sûr.
Ni de partenaire.
Mais c'est se sentir libre, quoi.
Ouais, ça veut dire que même les gens avec qui tu travailles,
ouais.
Eh ben, tu as réussi à créer cette alchimie qui fait qu'en fait, tout se passe bien. Tu vois ? C'est une certaine idée de la liberté, en fait.
Ouais.
Ouais. Mais on n'est jamais libre seul.
Non.
On est libre vis-à-vis des gens qui nous côtoient, qui nous entourent. En fait, je pense qu'il s'est trouvé un équilibre sans tomber dans la marginalité.
Ouais.
Parce que la marginalité, c'est facile, en fait. Moi, je peux me barrer et vivre en Inde.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
Ouais.
J'y ai vécu en Inde, je connais. Ouais. Enfin, je ne vais pas dire je connais l'Inde, mais je sais que tu peux rapidement te trouver un certain confort.
Ouais.
Mais en fait, c'est quoi? C'est une fuite.
Ouais.
C'est une forme de bonheur au dépend d'autre chose, tu vois.
Ouais.
La solitude, c'est pas du bonheur pour moi. Sauf si elle est choisie.
Ouais.
La solitude choisie, la personne qui aime être seule.
Ouais.
Voilà. La solitude, elle est appréciable quand elle est voulue, quand elle est pour un temps donné, etc. De toute façon, dès qu'il y a une porte de sortie à quelque chose, tu peux la trouver agréable ou désagréable, mais il y a une porte de sortie.
Ouais.
Être SDF, ça peut être une expérience intéressante quand tu sais que tu vas plus l'être à un moment donné de ta vie. Par contre, si tu l'es dans la continuité, ça doit être moi qui... C'est très dur, tu vois. Mais tu peux choisir la solitude. Il faut la choisir de temps en temps, c'est précieux. Ouais. Tu vois. Mais je pense que la solitude permanente, elle est... Enfin, c'est pas dans mon caractère, tu vois.
Ouais.
Même si j'aime être seul de temps en temps.
Ouais.
Je sais pas si c'est... Putain, c'est vraiment...
Non, tu veux dire
j'ai vraiment...
Est-ce que tu veux dire que tu cherches une meuf?
Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout la solitude affective ni amoureuse, c'est la solitude humaine.
Ouais, ouais, ouais.
Je trouve ça triste. Moi, ce qui me rend triste, c'est les personnes âgées qui sont seules et dont tu lis la solitude dans les yeux.
Ouais, ouais, non, ça c'est horrible. Putain, j'y pense pas souvent, parce que ça me. Mais oui, oui, non. Après, moi, la solitude là, en ce moment que je vis quand je suis seule sur l'île aux moines dans la maison, c'est un.
C'est différent. Tu sais qu'elle a une fin.
Oui, 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 oui.
C'est
oui.
pas une solitude de ton état. Si
non.
C'est pas permanent.
Ça fait du bien.
Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, la solitude de ton état, de permanente. Ouais. C'est-à-dire que tu finis seul, tu n'as pas d'amis.
Ouais.
C'est moi, je me suicide. Je ne vis pas une vie seule. Je ne vis pas une vie. Moi, l'autre jour, je voyais des gens. C'était en plein hiver. C'était quatre copains qui jouaient à la pétanque à Paris. C'est une certaine idée du bonheur pour moi. Ils ont des amis. Ils se trouvent à une certaine heure. Peut-être qu'ils n'ont rien à côté de ça.
Ouais.
Mais ils ont ce moment, tu vois.
Ouais.
Et ça fait tout le reste.
Un don, un talent que tu aimerais avoir?
Bah longtemps, j'ai été frustré de ne pas savoir jouer de la musique, d'être incapable de jouer.
Faire de la guitare.
Oui, parce que j'en achetais en pensant que c'était en achetant que j'allais apprendre à en jouer. Non, et après, en fait, moi, je crois que la grande chance du stand-up, c'est qu'on peut parler de tout ce qu'on ne sait pas faire et que finalement, on arrive à ne plus avoir de presque pas de complexe, mais on en rit, donc c'est un exutoire.
Ouais.
Donc aujourd'hui... non, j'ai pas de. Il y a plein de talents dont j'aimerais avoir. En plus grande quantité.
Ouais.
Parmi ce que je sais déjà faire.
Ouais.
Mais ce que je sais pas faire, j'ai accepté que je savais pas le faire, c'est tout, quoi.
Ouais. Ouais. Ton état d'esprit actuel?
Ça va, écoute. Je suis bien. Je suis bien. Et après, c'est les moods, hein, ça va d'un jour à l'autre, tu vois.
Ouais.
Ça évolue vite. Mais globalement, le fond est là. Moi, je suis jamais très heureux, mais je suis content d'être comme je suis. Si tu veux, je cherche pas à être plus. Voilà, je me dis bon, c'est déjà pas mal. Quoi.
Comme dans ton sketch, je suis moyen.
Ouais, je suis moyen, mais c'est bien d'être moyen. Tu vois, on n'a pas vocation à être super heureux en permanence, du moment qu'on l'est tout le temps, un peu. Quoi, tu vois.
Mm.
Après, bon, je sais pas, l'état d'esprit, non, bien, 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 cool.
Merci Alexis.
Merci Rosa, on a fait très long.
Ouais. Comme le dit Alexis, on avait fait très long. J'ai dû couper des petits bouts pour ne garder que l'essence. Le plus intéressant, selon moi, parce qu'au-delà d'1h20 de conversation, c'est difficile quand même pour vous de garder la concentration, de rester intéressé, attaché, impliqué. Sinon, c'est long. Joe Rogan, il fait des podcasts de 2-3 heures parfois, mais il y a une vidéo, là, c'est pas pareil. Et puis... Alexis, à la toute fin, je lui avais demandé une citation et il m'avait parlé de Sœur Emmanuelle, mais il m'avait dit va écouter, va voir sur YouTube. Donc c'est ce que je fais là. Je vous fais écouter un petit bout de Sœur Emmanuelle qui inspire énormément Alexis le Rossignol. Voilà.
Tout se résume en trois mots. Il suffit d'aimer. C'est la parole de Bernadette Delourde. Pour moi, c'est le résumé de ma vie, de mes convictions, de ce que je voudrais faire comprendre. Il suffit d'aimer. Et Saint Augustin, c'est pas n'importe qui, Saint Augustin, père de l'Église. Ama et facod vis. Aime et fais ce que tu veux. C'est bien simple. C'est bien simple. Mais aimer, le vrai amour, pas les amourettes, je t'aime et puis dans 6 mois, allez hop, il y aura une autre. Non, c'est pas ça. L'amour pour la vie, pour l'éternité. L'amour don, l'amour gratuit. L'amour qui cherche le bonheur de l'autre en même temps son propre bonheur. Moi, je ne suis pas pour sacrifier sa vie pour le... Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne trouve pas que ce soit bien de sacrifier sa vie pour les autres. Qu'on soit heureux ensemble. Dieu nous a créés pour le bonheur. Donc, moi, ce que je veux, c'est... Je vais dire un mot un peu trivial, mais tant pis, je le dis tout de même. C'est péter de joie. Ça vaut la peine de vivre. Allez, vas-y, vas-y. Chantons, dansons ensemble. La vie est belle, la vie est passionnante. Il suffit de se regarder, de s'écouter, de s'aimer, d'une bonne amitié. Toute simple, pas extraordinaire. Partout où l'on s'aime, à travers la souffrance, il y a une source de joie. Je l'ai connu, des gens qui souffrent. Mais quand ils sont ensemble et qu'ils s'aiment, ils ont au milieu de leur souffrance une source de joie. Ça, je le sais, je l'ai vu, tu l'as vu aussi. Ah non, 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 non. Tout amour vrai, sincère, est toujours un apport de bonheur. Il suffit d'aimer. Tu vois, ce que l'association fait dans les pays, mais c'est ça. On ne dit pas je t'aime, c'est pas la peine. On le vit. S'intéresser à quelqu'un, c'est l'aimer, tout simplement. Comme cette parole.
Pas besoin de parole, je ne sais pas si je suis d'accord. Mais s'intéresser à quelqu'un, c'est l'aimer. Ça, je trouve ça chouette. Cette parole de Sœur Emmanuelle, parce que je crois que c'est exactement ce que je fais de façon non chrétienne, mais à travers mon podcast. C'est continuer de réussir à aimer les autres en m'intéressant à eux, et ça me sauve. Ça me sauve de la douleur des castings, la compétition du milieu, ça me sauve de tout le fait de dire en avant, passionnons-nous pour quelqu'un, allons regarder tout ce qu'il ou elle a fait et questionnons ça. Et je ne sais pas si c'est de l'amour. Si, je crois que Sœur Emmanuelle le dit, c'est de l'amour dans l'autre, c'est une source de bonheur parce que c'est sortir, ouais. Et d'ailleurs, dans l'épisode avec Alexis, donc je parle beaucoup de la jalousie asphyxiante que j'ai ressentie pour Morgane Cadignan. Et je vous spoil, ceux qui sont arrivés jusqu'ici, jusqu'à l'outro, je ne le ferai pas sur Insta, mais je le dis ici, elle est la prochaine invitée du podcast. Elle est l'invitée de l'épisode 49. Et voilà, je la confronterai aux sentiments que j'ai pu ressentir. Vous entendez peut-être, il y a mon chat qui mange ses croquettes. Et là, c'est aussi l'un des grands bonheurs de ma vie, c'est d'avoir retrouvé mon chat dont j'ai été éloignée parce que j'ai vécu en Bretagne et dans le sud ces derniers mois. Et là, je viens juste de retrouver mon chat. Est-ce qu'il s'intéresse aux autres, lui ? Est-ce qu'il aime ? Il veut beaucoup manger. En tout cas, voilà, je crois que c'est vraiment une source de soulagement extraordinaire et de questionner, quoi, de se tourner... Voilà, de réussir à... Et voilà, la jalousie, c'est humain, mais vous verrez, je continuerai de questionner ce sentiment dans l'épisode prochain. Et j'espère que ça vous parlera et que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la franchise aussi, surtout, je crois. Et la honte, en fait. J'ai l'impression qu'on a... Honte. En tout cas, moi, j'ai honte d'être... On est tellement... comment dire ? La société d'aujourd'hui et Insta et les réseaux sociaux nous engagent tellement à montrer une part de nous-mêmes éclatante et rayonnante de bienveillance et d'ouverture que ça devient de plus en plus tabou de parler de ces parts d'ombre. Et pour moi, la jalousie, c'est très connoté négativement. C'est une grosse part d'ombre, en fait, parce que c'est quand même ne pas forcément vouloir du bien à quelqu'un, quoi. C'est penser que l'autre nous a volé quelque chose. Et voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse de questionner quand même ces parts d'ombre avec le plus de sincérité possible. Et merci de faire ce chemin avec moi en écoutant le podcast. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.